Université d'Angers sur un programme de recherche qui explique pourquoi il y a plein de logos sur cette première page. Parce qu'on est, dans un programme qui rassemble plusieurs universités, Tours, Angers, Lyon, une école d'architecture. On est financé par l'Agence nationale de la recherche pour essayer de voir un petit peu ce que c'est cet objet qui nous réunit ce soir. Alors bon, c'est un défi hein, que je me suis posé quand j'ai accepté l'invitation à venir parler ici, parce que c'est un sujet qui est très technique, un peu aride, on ne va pas se mentir, mais qui en même temps vous concerne tous, et nous concerne tous à plus grande échelle. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parte d'un cas concret. Le cas concret, c'est le suivant, c'est le propriétaire d'une maison, vous, moi, en tout cas quelqu'un qui a un désir de faire une extension à un moment donné de son habitation. Et alors je pars de ce cas pratique-là, comme je pourrais évoquer un propriétaire qui voudrait changer ses fenêtres, sa porte de garage, mettre un Vélux ou même mettre des volets roulants PVC, par exemple. Ou voilà, cette famille qui s'agrandit, qui a envie de surélever sa maison. Enfin, on a tout un tas de situations relativement concrètes de la vie presque quotidienne qui, à un moment donné, viennent se heurter à quelque chose qui s'appelle le droit de l'urbanisme. Alors, le droit de l'urbanisme, je fais un petit rappel, hein, comme ça on sera tous à niveau au bout du bout pour avoir un débat un peu constructif. Le droit de l'urbanisme, vous le savez sans doute, le principe c'est qu'on ne construit pas ce qu'on veut où on veut. Alors pourquoi on ne construit pas ce qu'on veut où on veut? Tout simplement pour éviter le pire. Pour éviter le pire et pour encadrer l'évolution de la ville. Alors je prends la ville avec un grand V, un espace urbain en règle générale. Aussi parce que le bon goût n'est pas universel. Si le bon goût était universel, on n'aurait pas besoin de documents d'urbanisme, puisque tout le monde ferait les choses dans les règles de l'art. Quand vous promenez un peu en ville, même dans le milieu rural, hein, on voit bien qu'on n'a pas tous le même goût et que des fois on est un peu heurté par un certain nombre de réalisations, et donc on n'a pas tous non plus la même conscience patrimoniale. Je pense que si on faisait un sondage dans la salle et que je vous le donnais, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer des images qui sont... pas tout à fait provocatrice, mais un petit peu exprès, où je titille un petit peu, justement pour montrer qu'on n'a pas tous la même conscience patrimoniale. Donc le droit vient encadrer tout ça, notamment pour endiguer le problème des banlieues, entre autres, des grandes villes, qui se standardisent. Donc vous me voyez arriver avec mon histoire de pavillonnaire, hein, on a la standardisation de l'habitation, et le droit vient essayer de régler tout ça. Donc on va poser ce principe-là que l'urbanisme est encadré par le droit. Et un document en particulier vient encadrer les constructions, ça s'appelle le fameux plan local d'urbanisme. Pour plus de facilité dans la suite du propos, je dirais le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors le PLU c'est quoi? Vous voyez que j'ai fait l'effort de chercher votre PLU de l'agglo. C'est le document par excellence de la planification patrimoniale qui nous concerne tous. Alors tous, en tout cas les communes ou les communautés de communes ou communautés d'agglomération qui sont pourvues d'un tel document. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a toujours de toute façon des règles à un moment donné qui encadrent l'urbanisme. Alors c'est le document de la planification territoriale à l'échelle locale. C'est-à-dire il n'y a pas plus bas en termes d'échelle que le PLU. C'est vraiment le document le plus proche du citoyen. Au-dessus, il y en a d'autres. Il y a le schéma de cohérence territoriale, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a tout un tas de plans régionaux, le SRADET, etc. Enfin, je vous passe les détails d'acronymes, sinon on va couler dessous. Mais le PLU, c'est vraiment celui qui est le plus proche des citoyens et qui vient gérer donc, les autorisations d'urbanisme. Donc tout ce dont on a parlé avant, c'est le PLU qui le gère. Et le PLU, il émane d'un projet politique, d'un diagnostic... Donc un projet politique qu'on dit, qu'on exprime au regard d'un état des lieux. Et il est le fruit d'un travail concerté, d'un ensemble d'acteurs locaux, y compris associatifs. Voilà, il y a toute une constitution de ce document d'urbanisme pour le réaliser. Et il traite toutes les thématiques. Alors c'est le transport, l'habitat, le commerce, l'environnement, le paysage, le patrimoine, etc. etc. Le PLU, c'est le couteau suisse de la planification territoriale. Il gère tout, on lui demande tout et il fait tout, pour aller vite. Il doit avoir une approche globale, une approche systémique, donc il embrasse toutes les thématiques du territoire. Il est là pour ça, il ne faut pas qu'il en oublie. Et notamment, il embrasse le patrimoine et le paysage. Alors, je fonds un peu les deux ensemble exprès, Et paysage et patrimoine, là-dedans, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont des thématiques comme les autres. C'est aussi important que les déplacements, c'est aussi important que l'environnement. Donc dire qu'on fait un PLU patrimonial, ça voudrait dire, on va venir dans le cœur du sujet, qu'on fait un PLU qui spécifiquement vient traiter de cette question patrimoniale. Et c'est ça que nous, on interroge en tant que chercheurs, c'est d'essayer de savoir, à partir du moment où on dit qu'un PLU est patrimonial, est-ce que vraiment je traite du patrimoine plus que je traiterais d'une autre thématique ? Alors, j'ai lâché le mot patrimoine, donc voilà, le patrimoine, oui, mais quel patrimoine ? Et c'est là où j'ai mis exprès des photos qui ne font pas forcément consensus. Vous voyez, j'ai mis un cimetière de guerre, j'ai mis une unité d'habitation de Le Corbusier, le Havre, qui est inscrit patrimoine mondial de l'humanité, et puis en haut, des photos plus classiques. Alors, il y a Lectoure, et je crois que les deux photos sont de Lectoure dans le sud-ouest de la France. Le patrimoine, en fait, c'est un objet qui n'est pas si simple à cerner. A priori, on est tous d'accord quand on dit le patrimoine, on dit oui, c'est ancien. Je pense que si je vous montrais une photo d'une maison à pans de bois, on serait tous d'accord pour dire que c'est du patrimoine, mais il y a un moment donné où on n'est pas forcément tous d'accord. Donc le patrimoine recouvre évidemment la notion d'héritage, la notion de transmission, mais il faut aussi retenir que le patrimoine, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est parce qu'une société au sens large dit qu'un objet est patrimonial qu'il le devient. Si on dit qu'à un moment donné, cette salle des fêtes est du patrimoine et qu'on est collectivement d'accord pour dire que cette salle des fêtes est du patrimoine, qu'à cela ne tienne, cette salle des fêtes sera un élément du patrimoine. Donc ça donne aussi l'idée que le patrimoine des uns n'est pas le patrimoine des autres. Moi, je peux trouver que des éléments sont patrimoniaux, et c'est le cas des cimetières de guerre. J'ai été marqué par ça quand je suis allé dans le nord de la France, par l'existence répétée des cimetières de guerre. Et je disais à des acteurs locaux, vous avez un patrimoine extraordinaire autour des cimetières de guerre. Et lui me dit, oui, enfin non, on en a partout dans le paysage. A contrario, moi je vis au bord de la Loire, inscrite patrimoine mondial de l'humanité. Moi, la Loire, c'est mon paysage quotidien, c'est mon patrimoine quotidien. Je la vois tous les matins quand je pars au travail. Donc j'ai pas la sensation plus que ça que ce soit un élément patrimonial. Donc le patrimoine des uns n'est pas le patrimoine des autres. Et la même question d'ailleurs se pose à propos des paysages, entre des paysages qu'on dit exceptionnels, alors sans doute le vignoble nantais est un paysage exceptionnel qu'on doit protéger, mais c'est aussi un paysage quotidien, notamment pour le viticulteur qui travaille dedans et qui n'a peut-être pas forcément conscience, mais j'en doute sur le viticulteur, qu'il n'en ait pas conscience, mais que ça peut être un paysage quand même qui soit exceptionnel. Donc finalement, il n'y a pas un patrimoine, mais il y a bien des patrimoines. Les PLU donc, sont le résultat de processus locaux dans lesquels la place des patrimoines n'est pas forcément évidente. Le patrimoine dans la planification urbaine, sachant qu'elle doit traiter toutes les thématiques du territoire, cette place-là n'est pas si évidente. Donc la question qu'on va se poser pendant ce petit temps qu'on a ensemble, c'est de savoir si les PLU peuvent prendre en compte les patrimoines et s'ils le peuvent, comment ils s'y prennent. Alors, il y aura une petite partie où on va rentrer un peu dans le droit. On va quand même titiller un peu cette notion de droit de l'urbanisme. Alors c'est là où je m'excuse par avance. J'ai essayé de rendre ça le plus digeste possible, mais on ne coupera pas à la lecture d'un article du Code de l'urbanisme, un seul, que je vous lirai tout à l'heure. Alors de quel patrimoine parle-t-on ? On va revenir un petit peu sur cette idée, cette notion de patrimoine, pour dire que cette notion de patrimoine, elle est protéiforme. Elle est protéiforme et déjà, simplement retenir que ancien, ça ne fait pas forcément patrimoine. Ce n'est pas parce que quelque chose d'ancien qu'il est forcément patrimonial. Donc, on a plusieurs niveaux de patrimoine en France, et vous en avez parlé un petit peu dans l'introduction, on a commencé à sentir les bâtiments de France, le fameux architecte des bâtiments de France. Si vous y êtes frotté, vous voyez un peu de quoi il est capable, c'est toujours l'empêcheur de tourner en rond. Le fait en France, très marqué, que le patrimoine, ça reste une affaire d'État. Parce que le patrimoine, c'est le bien commun de la nation. C'est une notion qui a été construite à partir de la Révolution française, quand on a commencé à massacrer justement un certain nombre d'éléments patrimoniaux, et en réaction, on a eu des processus de protection du patrimoine. Donc finalement, c'est la destruction qui a entraîné la protection. Et c'est l'État qui a géré cette protection du patrimoine, et depuis 1789, c'est l'État qui met en place un certain nombre de lois qui viennent protéger le patrimoine, et donc c'est toujours une affaire d'État. Donc, depuis le début du XXe siècle, la notion, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Tant et si bien qu'aujourd'hui, tout peut être patrimoine, potentiellement, mais heureusement, tout ne l'est pas. Je dis heureusement parce que si tout est patrimoine, plus rien ne l'est. Si on dit que tout est exceptionnel, tout est banal. Donc il faut toujours faire cette distinction, et on en reparlera, de qu'est-ce qui est exceptionnel, qu'est-ce qui est plus ordinaire. Alors, il y a une palette d'outils que je vais vous présenter rapidement, que vous connaissez peut-être pour certains. Palette d'outils de protection du patrimoine qui a suivi l'évolution de la notion. Et qui a renforcé aussi cette idée d'une hiérarchisation des patrimoines. Des patrimoines à l'échelle nationale, des patrimoines à l'échelle locale, très importants, moins importants. Alors déjà, il y a quelque chose que vous connaissez, c'est le patrimoine monumental, c'est les monuments historiques. Donc c'est le premier petit logo en rouge. Donc ça, c'est le patrimoine protégé par l'État, désigné par l'État, donc par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, donc qui émane du ministère de la Culture et de la Communication, par des spécialistes, par des architectes du patrimoine, par des gens qui savent, des experts qui disent « ça, c'est du patrimoine pour des raisons historiques, pour des raisons architecturales, etc. etc. » Mais déjà, on a une hiérarchisation dans le patrimoine monumental, parce qu'il y a les éléments qui sont classés monuments historiques et il y a les éléments qui sont inscrits monuments historiques. Et la protection juridique n'est pas tout à fait la même. Ensuite, on a les sites naturels, c'est-à-dire tout le patrimoine naturel et paysager. C'est une loi Alors, la première loi est de 1913, la deuxième loi sur les sites, c'est 1930, et là, on protège le pittoresque, on protège le paysage, qui est une notion qui n'a pas encore tout à fait émergé. On protège tout ce qui est naturel. Donc c'est là aussi des sites classés, des sites inscrits. La protection juridique n'est pas la même. Il y a les fameux périmètres de 500 mètres dans lesquels vous vous trouvez peut-être avec votre maison, qui est un périmètre qui vient protéger le joyau monumental. C'est une notion qui est un peu compliquée à saisir parce qu'en fait, on ne protège pas le patrimoine à l'intérieur de ces périmètres-là, normalement. On protège le monument, on protège les perspectives sur le monument, les vues qu'on peut avoir sur ce monument. Dans la pratique, parfois, c'est des bouts de ville qui sont protégés. Il y a une espèce de flou entre la protection de la ville, de l'espace urbain, et la protection de l'entourage du monument. Donc c'est une notion qui est un peu compliquée, qui tend juridiquement à essayer d'être un peu précisée. Il y a ensuite une loi qui est très importante en 1962, qu'on doit à André Malraux, qui est la loi sur les secteurs sauvegardés. Alors les secteurs sauvegardés, il y en a à Nantes, par exemple, à Tours aussi, à Saumur, pour citer des villes qui ne sont pas trop éloignées. C'est la consécration du patrimoine urbain. C'est-à-dire qu'on prend la ville dans son ensemble, ou en tout cas le centre historique dans son ensemble, comme un élément de patrimoine. Autant les monuments historiques, on cible localement, ponctuellement, un certain nombre d'éléments dont on dit qu'ils sont du patrimoine, mais c'est très ponctuel, autant le secteur sauvegardé embrasse toute la ville. Et dit la ville, l'ensemble urbain, c'est-à-dire les vides et les pleins, les petites maisons et les places, les rues, ça forme un élément patrimonial. Et c'est la valeur d'ensemble qui prévaut sur la valeur du monument ponctuel. Donc c'est extrêmement important, cette idée-là. C'est ce qui commence à faire entrer dans les mentalités le fait qu'un ensemble urbain peut être patrimonial. Et c'est complété en 1983 par les ZPP-AUP, alors ça c'est très barbare comme acronyme, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui seront transformées en 2010 en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, c'est la même chose quasiment, qui sont là aussi des éléments qui viennent protéger non seulement le patrimoine urbain, mais aussi potentiellement le patrimoine paysager. Et là, ça y est, on embrasse toutes les facettes de la notion de patrimoine. C'est-à-dire qu'on est parti d'un monument, de quelque chose de très ponctuel, pour arriver, dans les années 80, au territoire. On peut patrimonialiser le territoire et dire, finalement, ce territoire-là, c'est du patrimoine. Le paysage du vignoble nantais, alors je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas s'il y a un document de protection spécifique, mais on pourrait dire... Le paysage du vignoble nantais, c'est du patrimoine, c'est-à-dire la relation entre la vigne, l'habitat, les villages. On pourrait dire que tout ça, c'est du patrimoine et le ranger dans un de ces documents de protection du patrimoine. Aujourd'hui, tout ça est fondu, alors ça a rebougé en 2016, tout ça est fondu dans ce qu'on appelle les sites patrimoniaux remarquables, les SPR. Alors l'objectif, c'était de sortir des acronymes et puis finalement, tous les experts parlent de SPR, donc on a complètement raté le coche. Donc les sites patrimoniaux remarquables, qui sont un peu plus parlants et qui regroupent un peu tous ces outils-là. Donc tout ça, ce sont des outils qui existent et qui sont spécialisés, entre guillemets, sur la notion de patrimoine et qui montrent bien qu'en fonction des contextes, on n'appréhende pas tout à fait le patrimoine de la même façon. Et puis surtout, le patrimoine, on va revenir à cette notion-là, on le confronte à d'autres choses. On le confronte à des enjeux. On le confronte à l'histoire locale, on le confronte aussi à des enjeux de développement urbain. Qu'est-ce qu'on veut faire de la ville ? Par exemple, le patrimoine de la reconstruction n'est pas du tout abordé de la même façon dans les contextes, dans différents contextes. Vous prenez Tours, qui est un cas que je connais relativement bien. Tours, on a la reconstruction dans la ville qui est enserrée entre deux parties de ville très anciennes, Renaissance, Moyen-Âge, Renaissance. Il est évident que le patrimoine de la reconstruction à Tours, je ne vais pas dire qu'il n'intéresse pas beaucoup, mais on a des joyaux patrimoniaux qui l'entourent. Donc finalement, la reconstruction, oui, bon, bah, c'est là parce qu'il y a eu la guerre. Le Havre, la reconstruction, c'est autre chose. C'est un élément patrimonial très fort. En plus, c'est un seul architecte, Auguste Perret, qui a réalisé cette reconstruction. Et du coup, ça a une valeur patrimoniale beaucoup plus forte. Mais si au Havre, on avait toujours une ville Renaissance qui existait, peut-être que la reconstruction ne serait pas du tout reconnue de la même façon. Donc le patrimoine, c'est aussi contextuel. C'est très important, ça, de se rappeler que c'est toujours contextualisé. Donc on opère ce qu'on appelle une sélection patrimoniale. Cette sélection patrimoniale, on l'a fait au regard des enjeux urbains. Donc c'est-à-dire que on regarde un petit peu comment on choisit le patrimoine. Alors, je ne sais pas si la carte est très lisible. En bas, elle n'est pas du tout, mais pas forcément très très large. On a des cônes de vue dessus. On commence à rentrer dans les cartes un peu d'urbanisme. En tout cas, on sélectionne le patrimoine selon plusieurs enjeux. Alors l'enjeu urbain, c'est quoi ? C'est l'enjeu de développement. C'est-à-dire dire que des éléments sont du patrimoine, a priori, ça veut dire qu'on va éviter de les détruire. Or, si on évite de détruire certaines parties de la ville, on empêche ce qu'on appelle le renouvellement urbain. C'est-à-dire reconstruire des immeubles plus neufs, de l'habitat neuf, pour que la ville, elle continue de vivre. Si on fige une ville, si on la met sous cloche, c'est embêtant. Ça veut dire qu'on arrête de développer la ville. Donc il faut pouvoir laisser aussi le geste architectural nouveau s'exprimer. Donc on met en regard les endroits où on a du projet. Alors, un exemple tout bête, dans la commune où j'habite à côté de Tours, il y a un projet de deuxième ligne de tramway. Ben, c'est évident que sur le tracé de cette ligne de tramway, les élus ont évité de classer dans le plan local d'urbanisme des éléments en tant qu'éléments de patrimoine. Parce qu'il y a un projet, ça va bouger, ça va muter, il va y avoir des constructions. C'est un endroit qui va bouger. Donc on fait attention à ce qu'on fait. On confronte aussi le patrimoine au développement économique ou au tourisme. Alors là, c'est l'inverse. Le tourisme, le Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'humanité, on fait attention à ce qu'on fait. On prend soin de nos paysages, on prend soin de notre patrimoine parce que c'est un agrégateur de flux extraordinaire. On a des touristes qui viennent en masse visiter les châteaux de la Loire. Donc vous imaginez bien que si demain, je mets des barres d'immeubles à côté des châteaux de la Loire, je gâche mon paysage et a priori mes touristes. Donc il faut aussi que je mette le curseur à un endroit. Et puis, le patrimoine et les risques naturels. Si je suis dans une vallée inondable, où je ne peux plus construire, parce qu'il y a un document qui s'appelle le PPRI, le plan de prévention au risque inondation, qui peut empêcher de construire au nom du risque inondation, finalement, pourquoi pas dire que les constructions qui existent sont du patrimoine. De toute façon, je ne peux plus rien faire dans cette partie de l'espace. Donc, je ne perds pas grand-chose à dire que c'est du patrimoine. Donc, on met toujours le patrimoine au regard d'autres éléments. Et donc, au final, on finit par faire le tri. On fait ce qu'on appelle une sélection patrimoniale, un tri patrimonial, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tout ne peut pas être patrimoine. Il faut choisir. Et cette sélection patrimoniale, elle n'est pas neutre. Elle veut dire des choses. Alors, ça dépend qui l'a fait. Déjà, ça pose la question de est-ce que c'est l'expert qui dit ce qu'est du patrimoine ? Moi, j'ai un regard sur ce qu'est le patrimoine, mais je ne suis pas architecte, je suis géographe de formation. L'architecte du patrimoine, il va avoir un regard, il va dire « moi, je sais ». Il y a aussi ce qu'on appelle, vous connaissez peut-être, le service patrimoine et inventaire dans les régions, qui émanent des directions régionales des affaires culturelles, qui sont des sachants, qui sont des historiens, qui, eux, ont un regard d'historien qui pose sur le territoire et qui leur permet de dire « ça, c'est du patrimoine parce qu'il y a un certain nombre de critères scientifiques et historiques qui me permettent de le dire ». Mais peut-être que vous, habitants, vous allez dire aussi, cet endroit-là, c'est du patrimoine parce qu'il y a toute la mémoire collective du village. Est-ce qu'il y a une place à Saint-Fiacre ou à un bâtiment qui n'est pas forcément très beau, qui n'est pas forcément très vieux, mais qui cristallise, ça peut être un café par exemple, je vous dis ça parce que je suis passé devant un café à Saint-Fiacre en arrivant, pourquoi pas dire ce café-là, il cristallise toute la vie de la commune depuis des générations, donc c'est un élément du patrimoine local. L'expert vous dira aucune valeur. Mais vous, habitant, votre valeur, enfin votre expertise d'habitant va dire si, c'est un élément de la mémoire, donc ça peut être du patrimoine. Donc le patrimoine, c'est pas qu'une affaire d'experts, c'est une affaire de différents regards. Et ce qui est difficile dans le choix et dans la sélection qu'on va faire du patrimoine, c'est de se faire rencontrer ces regards, de faire en sorte que le regard de l'expert rencontre le regard de l'habitant, de l'usager, de l'élu, du technicien. Tous ces regards-là doivent essayer de se rencontrer pour définir collectivement ce qui est ou ce qui n'est pas du patrimoine. Donc, dans un plan local d'urbanisme, parce qu'on va quand même venir à notre PLU, ce choix de dire dans le PLU ce qui est du patrimoine, c'est déjà une stratégie locale, une stratégie des acteurs locaux. Alors, je suis désolé pour les élus qui sont dans la salle, je vais parler de stratégie d'élus, etc., mais pas spécifiquement sur Saint-Fiacre, parce que je n'ai pas regardé en détail le PLU de Saint-Fiacre. Mais dire dans un document d'urbanisme que tel bâtiment, telle zone, telle séquence, c'est du patrimoine, c'est déjà faire de la planification urbaine en disant ben là, on ne touche pas, ou là, on fait évoluer dans une moindre mesure. Le PLU, ça peut être un support de cette patrimonialisation. Alors vous avez vu, quand je vous ai parlé de tous les outils qui existaient, c'était pour vous montrer que le PLU, ce n'est pas un outil exclusif. Il y a plein d'autres outils qui savent gérer le patrimoine et qui sont même faits pour ça. Le PLU, encore une fois, c'est un outil d'urbanisme général, c'est du droit commun, c'est de la planification territoriale qui gère tout. Et ça peut gérer le patrimoine, comme on l'a dit. Alors, il ne faut pas que je me perde. Mettre du patrimoine dans le PLU, c'est possible, en tant qu'élément de diagnostic, connaître pour agir, ça c'est la base. Il faut connaître son territoire avant de savoir ce qu'on en fait. En tant qu'élément de projet, c'est-à-dire comment essayer d'intégrer l'existant dans le projet urbain, comment intégrer les nouvelles constructions, et en tant qu'élément à gérer. Donc de la gestion à la protection, où est-ce qu'on peut placer le curseur? Gérer et protéger, c'est pas tout à fait la même chose. Gérer l'évolution ou protéger le bâtiment. Donc il y a de multiples façons d'identifier ce qu'est le patrimoine. C'est la première étape. Dans le plan local d'urbanisme, vous avez compris, la première chose, c'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est patrimoine ou qu'est-ce qui n'est pas patrimoine. Et ça, c'est la première étape, c'est identifier ce qui fait patrimoine. Et là, nous, ce qu'on s'est rendu compte avec mes collègues chercheurs dans les différents plans locaux d'urbanisme qu'on a regardés, une trentaine en France à peu près, plutôt sur des grandes villes, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de méthodes pour identifier les patrimoines. Donc il y a plusieurs méthodes, des inventaires qui peuvent être faits par des experts, des repérages qui peuvent être faits, alors moi j'ai vu des repérages faits par des élus, qui sont accompagnés par des agences d'urbanisme ou des agences privées, mais on les accompagne et c'est eux qui font le repérage, des associations locales, ça aussi c'est important, on fait appel aux associations locales pour dire, vous qui avez un regard d'érudits locaux, c'est quoi le patrimoine pour vous? Ça dépend aussi des moyens et des compétences qu'on y met. Ça coûte cher. Un PLU, de toute façon, ça coûte cher. Mais quand en plus on rajoute une couche patrimoniale, ça coûte cher. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait des compétences derrière pour venir identifier le patrimoine. Des architectes, des historiens, des géographes, si on est capable, des experts, des habitants, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi des questions d'échelle. Alors ça, on reviendra sûrement sur cette question d'échelle. Aujourd'hui, on parle de PLUI. On a rajouté ce petit I à côté. Vous êtes concernés sur l'agglo de Clisson. Le PLUI, c'est le PLU intercommunal. Aujourd'hui, la loi Allure sur le logement de 2014 a dit on ne fait plus de PLU communaux, on fait des PLU intercommunaux. Alors, cette galère-là va parler à tous les élus dans la salle, les PLU intercommunaux. Bah, faut se mettre d'accord, en fait. C'est ça qui est compliqué. On rassemble plusieurs communes et on essaye de trouver une position commune, un consensus sur un projet de territoire. Et donc, évidemment, le repérage dans un PLU communal, il ne se fait pas de la même façon que dans un PLU intercommunal. Pardon. Pour vous donner un exemple, si ici, à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous avez une grange du XVIIe siècle, et c'est la seule dans la commune que vous avez, bien sûr, elle a une valeur patrimoniale. C'est facile à argumenter, elle est rare. Si dans l'agglomération, sur le PLUI, des granges 17e, il y en a 20, il y en a 30, c'est pas sûr qu'on dise que celle de Saint-Fiacre soit exceptionnelle, puisque finalement, c'est une parmi une trentaine sur le territoire de l'agglomération. Donc vous voyez que déjà, avec l'échelle à laquelle on repère le patrimoine, ben, on ne va pas repérer la même chose à l'échelle de la commune qu'à l'échelle de l'intercommunalité. Alors, pour vous donner un exemple d'intercommunalité taille XXL, c'est comme ça qu'on les appelle, le Pays Basque, c'est 154 communes. 154 communes. Comment on repère du patrimoine à l'échelle de 154 communes? Comment on fait pour dire ce qui est patrimoine, alors qu'on a des communes balnéaires, qu'on a des communes à l'intérieur des terres? La Touraine du Sud, c'est 54 communes. Ici, je ne sais pas combien c'est de communes, d'ailleurs, à Clisson, 16 communes. Bon, c'est déjà plus réduit. Mais déjà, mettre 16 communes d'accord sur un positionnement, sur la définition du patrimoine, jusqu'où ça va temporellement, qu'est-ce qu'on prend en compte dans la nature du patrimoine, les loges de vignes, les maisons, etc., c'est pas forcément évident. Les questions d'enjeux, on en a parlé tout à l'heure. Quels enjeux les élus vont se fixer dans ce PLU intercommunal ou ce PLU communal pour dire est-ce qu'on protège, est-ce qu'on gère, est-ce qu'on aménage, qu'est-ce qu'on en fait? C'est aussi une question à se poser. Et puis, les représentations qu'on se fait du patrimoine. Là aussi, je boucle la boucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Le patrimoine exceptionnel, d'accord, mais il y a aussi le patrimoine de proximité, qu'on appelle aussi le petit patrimoine. J'aime pas trop, c'est un peu péjoratif de dire le petit comme s'il y avait le grand patrimoine. Le petit patrimoine, c'est vos maisons, c'est les loges de vigne, c'est les moulins, les lavoirs, etc. Tout ce que Stéphane Bern essaye notamment de protéger avec son loto du patrimoine. Donc, qui le fait? Je ne sais pas si on voit. Alors, on peut le faire en interne, ça, identifier le patrimoine. En interne, ça veut dire des agents de la collectivité. Mais alors, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient compétents pour le faire. Donc, ce n'est pas forcément évident. Puis sinon, on fait appel à des cabinets d'études spécialisés, au service de l'inventaire, au CAUE, donc les conseils en architecture, urbanisme, environnement. Et puis, on a plusieurs méthodes. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. Alors, en bas à droite, c'est le PLU d'Orléans, où le chargé d'études a essayé de repérer des ambiances urbaines. Alors, le terme d'ambiance, il revient souvent dans les documents d'urbanisme. Donc, les ambiances urbaines, c'est l'interaction du bâti, du paysage, du végétal. On essaye de voir ce que ça crée comme ambiance. Et derrière, on identifie un certain nombre d'ambiances. En haut, c'est la commune de La Riche. Alors là, c'est le service de l'inventaire et du patrimoine de la région centre qui a fait un repérage du patrimoine avec une méthode qu'ils ont appelée ERIC, où ils repèrent si le bâtiment est exceptionnel, s'il est rare, s'il est intègre, c'est-à-dire s'il a été conservé dans ses formes et s'il est bien contextualisé. C'est une méthode scientifique qui a été développée, que nous, on est en train de redévelopper ailleurs avec d'autres types de territoires, avec des collègues. Et au bout du bout, ça donne une carte de hiérarchisation où on dit, bah voilà, il y a des bâtiments qui ont beaucoup de valeur patrimoniale, d'autres qui n'en ont pas beaucoup, et on invite les élus à se positionner. Donc il y a tout un tas de façons de faire pour identifier le patrimoine. Il n'y a pas une méthode. Il y a autant de méthodes potentiellement qu'il y a de PLU, même si on voit quand même qu'il y a des choses qui reviennent relativement souvent. Alors pourquoi on repère le patrimoine? Eh bien, c'est notamment pour essayer de regarder s'il y a des secteurs à enjeu qui vont muter, qui vont bouger, et pour lesquels il faut qu'on protège ce patrimoine. Si le patrimoine n'est pas amené à bouger, finalement mettre une règle dessus, c'est quasiment inutile. S'il y a une conscience patrimoniale, c'est quasiment inutile. À Chédigny, qui est une petite commune de l'Indre-et-Loire, qui est réputée en tout cas localement pour son festival des roses, le maire a initié une démarche de fleurissement de la ville, un cadre de vie beaucoup plus agréable. Il a travaillé ses espaces publics. Ils sont jardins remarquables d'ailleurs, hein, ce qui est labellisé jardin remarquable, ce qui est assez, c'est le seul village en France labellisé jardin remarquable, et qui a assez bien évolué. C'est-à-dire, il n'y a pas de catastrophe patrimoniale, les gens sont respectueux. Et quand je suis allé voir l'adjoint au maire en lui demandant est-ce que votre document d'urbanisme il est fort sur la question du patrimoine, est-ce que juridiquement il dit des choses, bah, il m'a tout simplement répondu on ne l'ouvre jamais. Parce que bah, les gens, ils ont envie de garder un beau cadre de vie, du coup, ils sont respectueux. Bah, quand ça marche comme ça, très bien, le document d'urbanisme n'a pas de raison d'être, quasiment. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des cas où, dans les secteurs tendus, notamment ce qu'on appelle les secteurs tendus au niveau du foncier, donc les grandes villes, à Nantes, par exemple, les promoteurs attendent les terrains pour construire des immeubles, etc. Donc, si on n'a pas une règle d'urbanisme qui dit « Non, mais là, c'est du patrimoine, donc on n'y touche pas trop », ou en tout cas on essaye d'y toucher finement, chirurgicalement, avec des choses très, très précises, si on ne fait pas ça, le promoteur, il rase, il construit un immeuble grand, avec des beaux logements, etc. Donc c'est surtout dans ces secteurs-là qu'il y a un enjeu sur la question patrimoniale. Donc on met toujours, évidemment, le patrimoine face à ces enjeux, notamment dans les secteurs soumis à mutation. Alors ça questionne aussi quelque chose qui est de plus en plus important aujourd'hui. Vous savez qu'on essaye d'arrêter de grignoter les terres agricoles parce qu'on s'est rendu compte, et on s'en rend compte plus que jamais avec les inondations qui ont lieu de plus en plus, que plus on artificialise les sols, moins on a de sols naturels, et donc il y a moins de l'eau circule moins, l'eau percole moins, il y a des inondations, etc. Il y a moins d'espace naturel, tout simplement. Donc on essaye à faire quelque chose qui s'appelle de la densification, c'est-à-dire essayer de remplir les trous. Une démarche qui s'appelle le BIMBY, alors je ne vais pas vous le dire en anglais parce que j'ai vraiment un accent à couper au couteau, construit dans mon jardin, en opposition au NIMBY qui est ne construit pas au fond de mon jardin. Construit dans mon jardin, c'est j'ai une grande parcelle, j'en vends la moitié, vous êtes peut-être concerné, et il y a une maison qui se construit derrière, ou un petit collectif. Et ça, c'est encouragé parce que finalement, on densifie la ville. Densifier la ville, ça veut aussi dire que il y a des accès plus faciles aux services, aux transports. Parce que plus on étale la ville, plus c'est compliqué pour les gens d'accéder aux services, aux transports. Donc on prend la voiture, donc ça pollue, et tout ce que vous connaissez comme effets collatéraux. Donc il faut mettre aussi en regard l'enjeu patrimonial et l'enjeu de densification. Jusqu'où je densifie, ou jusqu'où je gèle la densification au nom du patrimoine. Donc ça, c'est un enjeu pour les élus qui est extrêmement difficile à saisir. Enfin, en tout cas, il faut mettre le curseur. À la fois, densifier, c'est bien, parce que au niveau de l'environnement, au niveau de l'avenir, c'est ce qu'il faut faire. À la fois, densifier, c'est pas bien, si on considère la question patrimoniale, parce qu'on peut détériorer les abords de patrimoine, détériorer le patrimoine, etc., etc. Donc, il y a un curseur à mettre, on va en reparler. Et puis, il y a des endroits où le patrimoine... et pas forcément évident. Alors là, je vous ai mis un exemple qui est Bracieux dans le Loir-et-Cher, sur une commune sur laquelle je travaille, pour vous montrer en fait ces deux immeubles qui n'ont pas une grande valeur en tant que tel, mais qui ont un intérêt pour l'urbaniste que je suis, c'est qu'ils marquent une entrée de rue, c'est-à-dire deux pans coupés qui viennent marquer l'entrée de rue. Et donc l'enjeu ici, c'est conserver l'entrée de rue avec les deux immeubles à pans coupés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je conserve à tout prix ces deux immeubles, sachant que l'immeuble de gauche est abandonné, qu'il est en train de tomber en ruine, que l'immeuble de droite, il n'y a plus de façade commerciale et qu'il est assez détérioré. Est-ce que l'enjeu pour l'élu sera de conserver les immeubles? Ma réponse à moi, mais elle n'engage que moi, c'est pas forcément, tant qu'on garde l'esprit de l'entrée de rue. C'est-à-dire que si j'ai un promoteur qui devait venir et construire ici, on lui dirait... Il faut respecter l'entrée de rue, il faut reproduire le pan coupé, parce que la valeur patrimoniale de ces immeubles, elle est contextuelle. Elle marque l'entrée de rue, c'est tout. À partir du moment où on restitue l'entrée de rue et on fait les choses dans le respect de ce langage, de ce vocabulaire urbain, je pense qu'on sauvegarde l'esprit patrimonial, sans sauvegarder le bâtiment. Vous voyez ce que j'entends, c'est-à-dire que c'est pas, le patrimoine, ce n'est pas forcément ne pas casser un bâtiment, ça peut être respecter l'esprit, faire dans le respect d'eux. Donc ça, c'était un exemple un peu contextuel. Alors, le casse-tête patrimonial, je ne sais pas trop comment appeler cette diapositive. J'ai pris un exemple très concret de la commune où je réside à côté de Tours, où on a un patrimoine qui n'est pas du tout évident, parce qu'on est sur une commune qui a connu des bouleversements urbains. Donc on a à la fois des anciennes fermes du 17e qui sont au milieu des immeubles des années 70, vous voyez que sur la photo du haut au milieu, il y a une petite longère, à côté il y a la ZUP. On est dans des cassures d'échelle comme ça dans cette ville, donc là c'est un casse-tête. On est dans la dentelle pour faire un PMU patrimonial, pour aller chercher où est le patrimoine là-dedans. C'est vraiment un travail de dentelle qui a été fait. On a fait un repérage du patrimoine là-bas, mais ça a été compliqué de définir des règles en disant mais quel est le sens de mettre une règle sur cette petite maison à côté de la ZUP alors que son environnement est déjà dégradé. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de la raser et de construire un immeuble? Et la réponse à avoir, à mon sens, c'est en tout cas la réponse que le chargé d'études avait eue au maire, c'était de dire, monsieur le maire, ça dépend de l'histoire que vous voulez raconter. Et le patrimoine, c'est aussi ça, c'est une histoire qu'on se raconte, c'est un récit, c'est la mise en récit de la ville. La Riche, c'est une commune maraîchère, c'est lié à l'histoire du maraîchage. Mais on est aux portes de Tours, donc évidemment, il y a une pression foncière qui a été telle qu'on a eu beaucoup de constructions. Aujourd'hui, qu'est-ce que le maire veut raconter? Si le maire veut raconter l'histoire d'un centre-ville dynamique qui se développe, il ne va pas garder sa petite maison du maraîcher. Il va dire, faut que je renouvelle mon centre urbain, il faut que je me développe, je suis une ville périurbaine, je l'assume. Si le maire il veut raconter le passé maraîcher de la ville, alors il va garder des éléments qui rappellent ce passé maraîcher en disant, j'assume mon identité de passé maraîcher. Je n'ai pas encore prononcé ce mot-là, identité. Mais ça aussi, c'est extrêmement important. Dans les PLU, on cherche à conserver peut-être parfois plus l'identité du territoire que le patrimoine. Mais le patrimoine, c'est le support de l'identité. D'accord ? C'est peut-être un peu compliqué tout ce que je dis, puis surtout, je vais assez vite. Le PLU, au PLUI, bah, encore une fois, c'est pas une simple question d'échelle. Alors, on embrasse la complexité des échelles. Le géographe adore les échelles. On adore les questions d'échelle. Du micro, la façade, l'arbre unique, hein, l'arbre ponctuel, l'arbre remarquable, le jardin. Et puis on va au macro, le grand paysage. La Loire, par exemple, c'est du grand paysage. Le paysage urbain, c'est-à-dire un front bâti, par exemple, qui va s'étendre sur 500 mètres. Les quais de Loire à Orléans, c'est un front bâti. Donc, comment on travaille ces notions-là ? Bah, faut avoir les deux lectures, en fait. Faut avoir la lecture micro et la lecture macro. Et finalement, ce qu'on remarque, notamment dans les PLUI, c'est que le paysage et le patrimoine, c'est fédérateur. C'est fédérateur parce que les élus s'y retrouvent. Je suis actuellement un PLUI qui est en cours de constitution sur un territoire que vous ne connaissez pas, mais si je vous dis le nom du territoire, vous saurez le situer, c'est la communauté de communes du Grand Chambord. Ils ont une locomotive énorme qui s'appelle Chambord, ils en ont une deuxième énorme qui s'appelle une centrale nucléaire, qui en termes économiques ramène pas mal d'argent. Et ils sont 17 communes avec 3 unités paysagères, la Sologne, le Val-de-Loire, et la troisième m'échappe, mais on est plus sur le début de la Touraine. Comment on met des élus d'accord qui n'ont pas les mêmes enjeux ? Ceux qui sont sur la Loire n'ont pas les mêmes enjeux que ceux qui sont dans la Sologne. Eh bien, ils ont fait le choix de prendre le patrimoine et le paysage comme étant des éléments fédérateurs de leur identité de territoire, aussi parce que grâce à ces éléments-là, ils racontent un territoire. Ils racontent un territoire. C'est un territoire administratif, c'est un découpage administratif, c'est une communauté de communes qui n'existe que sur le papier. Et le patrimoine et le paysage permettent de justifier, de créer une identité sur ce territoire qui n'est à la base qu'un découpage administratif. Et ça, c'est passionnant parce que ça veut dire que on peut raconter une histoire de territoire avec le patrimoine. On peut manipuler aussi le patrimoine pour raconter l'histoire qu'on veut. Hein, c'est à double tranchant. On va passer à la partie un peu plus technique, un peu plus ardue, que je vais essayer de vous rendre un peu mangeable. Maintenant qu'on a un peu évoqué cette notion de patrimoine, qu'on a évoqué l'identification de ce patrimoine, les enjeux qu'il y a autour de ce patrimoine, on va se poser la question de comment on le protège dans un plan local d'urbanisme. Juridiquement, comment ça marche ? Alors, je vais revenir à mon affaire d'extension de maison. Si l'habitation concernée par l'extension, par la véranda, par le garage ou je ne sais quoi, est en zone, dans une zone patrimoniale définie dans le PLU, alors une série d'outils juridiques peut se mettre en œuvre pour encadrer son évolution. Et on a toute une palette d'outils dans le PLU qui permet de protéger cette maison. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet et où je vais avoir plus de textes. Il y a un article dans le Code de l'urbanisme qui est l'article L151-19 du Code de l'urbanisme que vous pouvez retrouver sur un site qui s'appelle Légifrance, hein, dans lequel vous avez tous les codes à disposition, qui permet de prendre en compte juridiquement le patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit, je vous le lis, hein, il est indiqué, mais c'est peut-être petit, le règlement, donc du PLU, hein, le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural, et définir le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Alors il est mastoc, hein, il y a beaucoup de mots, une tournure de phrase un peu compliquée, mais c'est à partir de cet article-là qu'on peut déclencher tout un tas d'outils dans le PLU pour protéger le patrimoine. Alors déjà, il faut faire attention aux mots. Le PLU peut identifier le patrimoine. Il le peut, mais il ne le doit pas nécessairement. C'est une faculté. En droit, il faut distinguer. Alors, je ne suis pas juriste, mais je travaille avec beaucoup de juristes, donc je commence à avoir à rouler ma bille dans le domaine. Il faut distinguer le verbe pouvoir de devoir. Je peux le faire, ça veut dire que je ne suis pas obligé de le faire, mais que j'en ai la possibilité. Je dois le faire, là j'ai une notion d'obligation. Donc le PLU n'est pas obligé d'identifier le patrimoine et de le protéger, mais il peut le faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que cet article, il ouvre la possibilité de, mais il laisse quand même une liberté à la collectivité de savoir s'ils le font ou pas et jusqu'où ils le font. Il y a vraiment un choix qui est laissé, une liberté d'action qui est laissée à la collectivité, au nom de quoi ? Au nom de ce qui s'appelle la décentralisation, c'est-à-dire la libre administration des collectivités locales. Donc il peut le protéger, il peut l'identifier, localiser, mais là aussi il n'est pas obligé. On pourrait dire, moi je dis que dans le PLU il y a du patrimoine, mais je ne le localise pas sur une carte. Je dis qu'il y en a. Je dis à peu près ce que c'est, mais je ne le localise pas. Mais je peux aussi aller très loin, et je peux mettre une croix sur la parcelle où j'estime qu'il y a du patrimoine. Là aussi il y a un curseur qui peut être placé de façon très différente. Donc ça laisse là le choix à la collectivité de gérer son patrimoine et de voir comment elle veut faire pour le faire. Cela dit, là c'est le cas où tout va bien. C'est-à-dire on dit la collectivité a le choix de dire il y en a, il n'y en a pas, je l'identifie pas. Il faut quand même noter que par principe, comme on l'a dit tout à l'heure, un document d'urbanisme comme le PLU doit traiter du patrimoine, mais comme il traite les autres thématiques. Si un PLU ne traitait pas de la thématique de la mobilité, le préfet viendrait dire « Attendez, c'est pas sérieux là, vous ne traitez pas de la mobilité dans votre plan local d'urbanisme ?» On pourrait dire la même chose du patrimoine. S'il n'y a rien sur le patrimoine, pas une ligne, pas un mot, le préfet, mais comme une association locale, pourrait dire « Attendez, vous n'êtes pas sérieux là. » Et ça peut avoir des conséquences graves. Le PLUI d'Angers-Loire Métropole a été annulé en 2009, notamment sur des motifs patrimoniaux, parce que des associations locales ont montré qu'il y avait du patrimoine qui n'était pas pris en compte dans le plan local d'urbanisme. Ils ont dit, attendez, on a un inventaire du patrimoine, on sait qu'il y en a, c'est des experts qui l'ont fait, et il n'y a pas une ligne ou très peu de choses dans le PLU, non, ça ne va pas, on emmène devant le juge. Et le juge annule le PLU, quand même fort. Donc ils ont dû refaire le PLU, et ils ont été obligés de mettre du patrimoine dans leur PLU. Donc la marge de manœuvre et la liberté qui est laissée aux collectivités locales, elle est à relativiser. Une collectivité locale, elle ne peut pas dire « il n'y a rien sur mon territoire ». C'est difficile. C'est même dangereux pour la collectivité de rester silencieuse, sauf à prouver qu'elle n'en possède pas. Il faut faire la démarche à ce moment-là de dire « je vais vous démontrer que je n'ai pas de patrimoine sur mon territoire ». Et ça, je pense que ce n'est pas évident parce que la conscience patrimoniale chez les habitants de n'importe quel territoire, elle existe quand même sur certains éléments. Si ce n'est pas le patrimoine, c'est la mémoire ouvrière. Prenez par exemple le nord de la France, il y a une mémoire ouvrière, liée à la mine qui est extrêmement importante. Et si la collectivité ne dit pas que c'est du patrimoine, je vous garantis que les anciens ouvriers, eux, ou les fils d'ouvriers vont vous dire si, c'est du patrimoine, parce que ça a marqué notre vie, ça a marqué notre existence. Alors quelle forme cette identification elle prend dans le règlement ? Alors je vous ai mis un exemple sur la droite d'une légende d'un PLU sur la question du patrimoine et du paysage. Et donc, vous voyez que ça peut être du ponctuel, un édifice bâti, ça peut être un ensemble patrimonial, ça peut être des façades, des alignements de façades, et ça peut être aussi des composantes végétales, avec là aussi, c'est toujours le géographe qui s'amuse à faire du ponctuel, du linéaire et du zonal, c'est nos trois grands trucs. Donc, l'arbre remarquable ponctuel, la haie en tant que linéaire, ou un espace boisé en tant qu'élément zonal. Alors comment ça se traduit ça dans le règlement ? Alors le PLU déjà, il a deux types de règlements. Je me rends compte que j'ai passé une diapo tout à l'heure où il y avait des pièces qui constituaient le PLU, je ne les ai même pas dites à l'oral. Un PLU, c'est un rapport de présentation, l'état initial de l'environnement, c'est la photographie du territoire à un instant T. Un PADD, un projet d'aménagement et de développement durable, c'est le projet politique qui va définir les grands axes, les grandes orientations du territoire pour les 10-15 ans à venir. Et puis c'est un règlement qui se compose de deux parties, un règlement graphique, un plan de zonage, et un règlement littéral, c'est-à-dire un règlement textuel, ok, pour tout à fait clair. Donc comment l'identification du patrimoine, elle prend corps dans le règlement, comment elle peut prendre corps ? Eh bien, le premier outil qu'on utilise, c'est l'outil cartographique. On entre dans le dur du dur. Donc ça, c'est un plan de zonage de PLU à La Riche, qui est un PLU assez récent. Et ce qui est intéressant dans cette commune, et ce n'est pas exclusif, hein, il y a d'autres communes qui le font, c'est l'existence d'une zone UP. Alors le PLU, il distingue quatre grands types de zones. La zone U, c'est la zone urbanisée, dans laquelle on a déjà des habitations ou des locaux, et qu'on peut continuer à urbaniser. Les zones AU, qui sont les zones A urbanisées, c'est l'ouverture de l'urbanisation au lotissement, aux AC, etc. Les zones A, agricoles, donc là c'est assez limité, hein, on urbanise très peu. Et les zones N, naturelles, que par principe, on n'urbanise pas. Bon, il y a toujours des exceptions, je fais grâce des exceptions, hein, je ne fais pas un cours de droit. On peut distinguer dans les zones U, qui sont en général les zones qui viennent couvrir les centres anciens, on peut distinguer un sous-indice patrimonial, pour dire là, c'est une zone spécifiquement patrimoniale. Ça, c'est réglementaire. C'est réglementaire au sens où ça s'impose aux habitants. On appelle ça l'opposabilité. C'est opposable au tiers. Le tiers, c'est vous. Donc ça s'impose aux habitants. Donc c'est un des outils. C'est un des outils, mais dans votre PLU à vous, alors là, j'ai pris Saint-Fiacre, je crois. Non, Clisson, c'est, oui, mais je crois que c'est Saint-Fiacre que j'ai pris spécifiquement. J'ai regardé un petit peu votre PLU. Il n'y a pas de zone UP. Il y a des zones UA, etc., mais il n'y a pas de zone UP. Pour autant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de zone UP qu'il n'y a pas de patrimoine dans la zone. Alors, j'ai pas réussi à accéder au règlement textuel qui doit pas être en ligne encore, peut-être, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de sous-indice patrimonial que le patrimoine n'existe pas. Donc, on peut préciser UP comme patrimonial, mais on peut aussi avoir une zone U dans laquelle le patrimoine peut être pris en compte dans le règlement sans être indiqué sur le plan de zonage. Vous voyez la subtilité un petit peu. On a aussi des zones classiques, alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran, dans lesquelles ce que je montre au bout de la flèche, c'est des petites étoiles. Et donc ça, c'est le PLU de Rennes qui a pastillé avec des petites étoiles des bâtiments. Et chaque bâtiment avec une petite étoile, c'est un bâtiment relevé comme étant du patrimoine. Donc là, on est sur du ponctuel. Le PLU de Tours a fait pareil dans un quartier 19e. Ils ont mis une petite hachure sur le bâtiment pour dire ça, c'est un élément de patrimoine. Mais on est bien sur le bâtiment, le ponctuel. Donc on a une diversité de pratiques, puisqu'il n'y a pas de règlement national, normé à l'échelle nationale. Chacun fait un peu comme il veut. Alors, ce qui fait que parfois on se retrouve avec des zones UAPI, qui peut être une zone U, une zone UA comme la première partie du centre-bourg, P comme patrimonial et I comme inondation. On arrive à des trucs parfois complètement bizarres, un peu compliqués à comprendre pour vous, même pour nous qui sommes dans le domaine. Des fois, on s'arrache un peu les cheveux. Un autre outil qu'on utilise, qui sera plus parlant, c'est la fiche patrimoine. C'est-à-dire, dans le PLU, peut faire des fiches patrimoniales qui peuvent avoir plusieurs statuts. Alors une fiche, ben voilà, c'est une photo, l'adresse, la référence cadastrale, quelques éléments d'information. Là, je vous ai mis deux exemples qui ne sont pas lisibles sur le deuxième, mais je m'en excuse. Le PLU d'Aubonne dans le 95 et à nouveau le PLU de la Riche, parce que je l'ai bien étudié en fond en comble. Ce qu'il faut distinguer sur la fiche, c'est que en fonction de sa place dans le PLU, elle n'a pas le même statut. On peut avoir des fiches indicatives, informatives, comme c'est le cas sur la fiche de gauche. La fiche de gauche, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, voilà, là on a un bâtiment intéressant, c'est du patrimoine, il est situé à tel endroit, c'est du patrimoine parce qu'il est de telle époque, il y a des modes des natures, il y a une architecture particulière. Ok. La fiche numéro 2, sur la droite, elle dit la même chose que la première en haut, et en bas, elle met des prescriptions. Elle dit, voilà sur ce patrimoine ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. La première, elle ne met pas de prescription. Elle ne dit rien sur le règlement. La deuxième, elle dit des choses sur le règlement. Donc déjà, leur statut n'est pas tout à fait le même. Et puis, en fonction d'où on la place dans le PLU, là non plus, on n'a pas tout à fait le même statut. Si je place ma fiche dans le rapport de présentation du PLU, j'informe qu'il y a du patrimoine. Je dis que c'est un des éléments de ma photographie à un instant T. Je dis, voilà, il y a du patrimoine sur la commune, il existe, il est là. Aucune valeur juridique, le rapport de présentation. Aucune valeur juridique pour vos autorisations d'urbanisme. Si je la place dans le corps du règlement, c'est-à-dire à la fois sur le document graphique et dans le règlement écrit, là, j'ai un impact juridique fort, puisque ça s'impose à vous, ça s'impose aux habitants. Si je la place en annexe du règlement, je n'ai pas tout à fait le même statut. Je suis juridiquement beaucoup moins fort. Donc là, il y a un curseur à placer en fonction du désir de la collectivité d'être fort ou non sur le domaine du patrimoine. Je contrains beaucoup, je contrains pas beaucoup les habitants. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. En fonction d'où on la place, la portée juridique n'est pas du tout la même. Donc vous voyez que je ne rentre pas plus que ça dans le détail sur cette place de fiche dont je pourrais parler un peu plus en détail, mais on a des subtilités comme ça du PLU, notamment sur la place des fiches, qui fait que ça demeure bien un outil à géométrie variable sur lequel on a un choix conséquent pour faire les choses. Regarde, je suis beaucoup plus long que prévu, je m'en excuse. Alors, le règlement littéral, c'est le règlement écrit. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'on peut édicter comme règle? C'est là où on entre dans le dur qui peut vous concerner. Le règlement écrit sur le patrimoine, il peut comporter des prescriptions sur l'aspect extérieur des constructions. Les volumes, les formes, les matériaux, les couleurs, les menuiseries. La modification du bâti existant, la surélévation, autorisée ou non, les annexes, autorisées ou non, la destruction, la démolition, soumise à permis de démolir ou non. Les espaces libres, est-ce qu'on doit préserver des plantations? Est-ce qu'on doit créer des plantations? Donc tout ça, ce sont des choses que le règlement peut dire. Mais ce règlement, il a aussi une intensité variable. Quand on lit la règle, on a déjà deux types de règles. On a ce qu'on appelle des règles impératives. C'est mon histoire du doigt et du peu de tout à l'heure. Quand je dis, alors je vous ai mis quelques exemples, les soubassements, les encadrements d'ouverture, les chaînages doivent être conservés. Je ne laisse pas le choix, ça doit être conservé. La pente du toit ne peut pas être supérieure à 60 degrés. Ça ne peut pas être supérieur, c'est clair, c'est dit, c'est pas très compliqué à comprendre. Et puis j'ai des règles qu'on appelle aussi des règles permissives. La règle permissive, c'est le maintien des espaces boisés, arbres isolés ou plantations doit être recherché. On ne dit pas qu'il doit être trouvé, on dit qu'il doit être recherché. Le pétitionnaire, c'est-à-dire l'habitant qui demande son autorisation, doit montrer qu'il a recherché cet objectif. Les essences locales doivent être privilégiées. On ne les impose pas, on engage la personne à planter tel type d'arbre. Et s'il veut planter un palmier, on ne peut pas lui dire non. Les constructions de briques de tradition sont dans la mesure du possible conservées. Il suffit de prouver que ce n'est pas possible et on ne les conserve pas. Donc là, on est sur des règles permissives qui sont interprétables. Alors il y a l'interprétation de la règle, justement. Est-ce que c'est mission impossible, interpréter la règle? Alors je donne toujours cet exemple-là que j'aime beaucoup, deux, trois exemples. Les constructions d'architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdites. C'est quoi une construction d'architecture archaïque? Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de personnes dans cette salle. Tout comme cette deuxième phrase du plan d'occupation des sols de la ville de Tours, on évitera l'architecture intempestive et provocatrice. Qu'est-ce que c'est que l'architecture intempestive et provocatrice? Un architecte qui aime bien faire des gestes contemporains, il vous dira qu'une maison à toit plat en plein milieu, enfin à toit terrasse en plein milieu d'un centre ancien, c'est pas forcément provocateur. Vous direz, bah si, c'est pas possible. Enfin, peut-être. Peut-être pas d'ailleurs. Ce qui veut bien dire qu'on n'a pas tous la même idée de ce qu'est l'architecture, de ce qu'est la qualité architecturale et urbaine. Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue. Si vous voyez beaucoup de couleurs ocre, vous dites je mets de l'ocre et que le voisin dit mais non, c'est plus du gris quand même qui domine, l'ocre il est secondaire, on n'est pas tous d'accord. Tout projet doit s'inscrire dans les fondamentaux de la rue et du territoire. Reste à définir ce que sont ces fondamentaux. Tout ça, ça a aussi un objectif, cette interprétation de la règle, dont on n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la règle. Finalement, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est l'esprit de la règle. Et tout ça, ça mène à quelque chose qui s'appelle l'urbanisme négocié. L'urbanisme négocié, c'est quoi? C'est partir d'une règle ou d'un objectif et dire maintenant on se met autour de la table et on discute. Et on discute avec le gars qui a le projet. Vous voulez agrandir votre maison? Ok. Il y a des règles. On a des objectifs qui sont de s'inscrire dans les fondamentaux de la rue. Venez avec nous, on va discuter de ce que sont les fondamentaux de la rue. Et on se met collectivement d'accord sur cette notion et on fait un projet qui respecte l'existant. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, le ministère, il engage les PLU à faire des règles sur objectif. L'objectif devient la règle. C'est ça qui est intéressant. On n'aura plus de règles avec des hauteurs en fêtage, des goûts, etc. Ce sera un objectif, la règle. Et finalement, la règle, c'est tendre à cet objectif. Alors pour ça, et j'ai mis cette diapo parce que je trouvais ça intéressant de montrer qu'il y a des outils et des gens qui accompagnent les habitants dans ces démarches-là. C'est des maîtres d'œuvre, les architectes par exemple, qui sont capables de vous parler. C'est les services instructeurs de la commune. Les CAUE, les conseils d'architecture, urbanisme, environnement, qui donnent des conseils gratuits. Les architectes des bâtiments de France qui ont aussi un rôle et une mission de conseil. Tous ces gens-là, tous ces experts-là peuvent vous aider à comprendre la règle quand on n'arrive pas bien à la savoir. Et si vous avez un projet, moi je vous engage à aller les voir avant de déposer votre permis de construire. Vous aurez beaucoup plus de facilité à faire votre permis et à le faire accepter qu'en le déposant sans rien demander à personne. Et puis, il y a aussi cette idée que tout est logique dans un PLU. C'est-à-dire que la règle, elle trouve son explication dans le rapport de présentation. Si on met une règle, c'est parce qu'il y a un projet. Et le projet, il émane de la photographie du départ. Si ma photographie de départ, elle montre que j'ai plein de patrimoine, et que dans mon projet, je dis, comme j'ai plein de patrimoine, j'ai un projet qui est de le protéger, la règle va mettre en œuvre la protection de tout ça. Donc il y a bien une logique de tout ça. Des outils aussi qui existent, qui s'appellent des outils du droit souple. Alors le droit souple, c'est ce droit qui n'est pas du droit dur, par opposition, qu'on appelle des fois du droit mou. Le droit souple, c'est des outils qui ne sont pas opposables. C'est par exemple une charte architecturale et urbaine. C'est par exemple un croquis qui vous montre sur la droite l'état projeté, ce qu'on aimerait bien sur le territoire. Qui vous montre à gauche comment, sur l'implantation des commerces, comment est-ce qu'on respecte les façades. Donc ça, c'est à Pau, le guide des devantures commerciales. C'est pas opposable. Devant le juge, ça vaut rien. Le juge, il peut pas dire « Vous n'avez pas respecté la charte ». Par contre, ça a une vertu pédagogique extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on montre ça aux gens, un schéma, si je vous le montre, c'est quand même parlant. C'est plus parlant que de lire un texte, comme l'article qu'on a lu tout à l'heure, et le code de l'urbanisme en est rempli. Donc la plus-value de ces schémas-là, c'est la médiation qu'on fait autour du patrimoine. Comprendre ce qu'est le patrimoine, comprendre pourquoi on embête les gens avec des règles, je vous garantis que quand les gens comprennent, enfin je vous garantis, en tout cas on l'a vu dans nos travaux, quand les gens comprennent la règle, et ben ils respectent le patrimoine. Si on ne comprend pas la règle, on n'a pas envie de respecter. Si on a des schémas qui nous montrent vers quoi on peut aller, comment est-ce qu'on peut imaginer le projet, c'est quoi respecter le patrimoine, et ben on va être plus engagé à essayer de le respecter, même s'il y a un surcoût, parce qu'il y a un surcoût sur le patrimoine. Mettre des fenêtres en bois, c'est plus cher que de mettre des fenêtres en PVC. Mais dites-vous bien que de mettre des fenêtres en bois, votre bâtiment, il acquiert une plus-value, y compris financière, que si vous mettiez des fenêtres en PVC avec un coffrage volet roulant. Ça, c'est une évidence. Mais sur le moment, il faut dépenser plus d'argent. Donc au final, j'en arrive à ma conclusion. Enfin, retenons que même si il peut être contraignant pour les propriétaires, parce que oui, le patrimoine, encore une fois, ça peut être une contrainte. Même s'il est contraignant, le droit est là pour veiller à ce que les choses se fassent dans le respect de l'existant, dans le respect du patrimoine. C'est ça l'objectif. Et donc, les patrimoines trouvent bien leur place dans le PLU, mais ils pourraient trouver leur place ailleurs, dans un secteur sauvegardé, une AVAF, les outils que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc le PLU a de la souplesse, on l'a vu, hein, il est malléable, les élus peuvent mettre le curseur, et tout est question de dosage en fait. Où est-ce que je place le curseur dans l'identification? Où est-ce que je place le curseur dans la protection? Jusqu'où je vais dans la règle? Est-ce que je vais dans le très contraignant, au risque qu'elle ne soit pas appliquée? Parce qu'une règle qui est très contraignante, elle n'est pas acceptée. Si elle n'est pas acceptée, elle n'est pas appliquée. Il faut vous dire que le nombre de travaux sans autorisation est assez incroyable, et quand un propriétaire fait des travaux sans autorisation, potentiellement il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc si on met le curseur un peu plus bas, mais que par contre on a une politique pédagogique intéressante de médiation, bah peut-être qu'on va gagner en qualité à la place d'une règle hyper dure qui n'est pas respectée. Donc tout ça, c'est un curseur qui est très très fin à placer, et nous c'est précisément ce qu'on étudie dans notre programme de recherche. Donc le PLU, il vient bien gérer le cadre de vie, et puis on observe d'ailleurs ce glissement sémantique du patrimoine au cadre de vie. Aujourd'hui, dans beaucoup de PLU, on ne parle plus de patrimoine. Dans le PLU de Tours, il est en train de se refaire, là. Ils sont en révision. Et ils parlent de quartier de cohérence urbaine. On n'est pas dans du patrimoine. Ce n'est pas du patrimoine, c'est de la cohérence architecturale et urbaine. Et on veut que les constructions qui vont s'implanter respectent cette cohérence. On n'est plus dans le registre du patrimoine, mais on est quand même dans un registre du dans le respect d'eux. Donc il y a aussi un petit glissement qui est en train de s'opérer. Et enfin, et je terminerai là-dessus pour vraiment appuyer mon propos, c'est que le droit ne fait pas tout. Le droit ne fait pas tout, et que si notre propriétaire, au bout du bout, il a pu réaliser son extension. C'est la petite image que j'ai mise à droite. Alors, c'est un collègue de l'université qui a fait des petits dessins dans le cadre d'un jeu de plateau qu'on est en train de réaliser sur le PLU patrimonial. Donc, on a un collègue qui dessine très bien. Donc, j'ai réutilisé, je le dis, parce qu'il n'est pas là, mais il nous a fait ça très gentiment. Donc, le droit ne fait pas tout. Et si notre propriétaire, il a pu utiliser faire son extension, bah, c'est parce qu'il a compris les règles, parce qu'il a compris l'intérêt de la règle, parce qu'il a su s'entourer, et parce qu'il a pu aussi la négocier et comprendre que finalement, sa maison, c'était du patrimoine et que s'il faisait des travaux dans le respect du patrimoine, on était tous gagnants sur le respect du cadre de vie. Voilà, je m'arrêterai là, juste pour aller plus loin si vous voulez. Un site internet de notre programme de recherche en haut. Et on a une petite chaîne Canal U qui est l'équivalent du YouTube universitaire. PLU patrimonial, sur laquelle on a des entretiens avec des élus, avec une sénatrice, avec le directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux. On a aussi des balades urbaines sur lesquelles on discute justement de ces notions d'insertion paysagère avec des spécialistes qu'on a filmés. Donc il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger, je vous invite à y aller. Voilà, je vous remercie et si je ne vous ai pas trop épuisé avec mon flot de paroles et la thématique... Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, si j'en suis capable.
J'ai une question. Dans tous les PLU que vous avez pu étudier, quelle est la proportion qui ont vraiment un intérêt fort pour le patrimoine ?
C'est compliqué comme question parce que on a étudié les PLU des 20 plus grandes villes de France. On avait affiché ça dans notre programme. Et le PLU des 20 plus grandes villes de France, tous traitent de la question patrimoniale. Mais quand on va un peu en finesse, ils ne le font pas de la même façon et juridiquement, ils ne mettent pas le curseur au même endroit. Alors, vous répondre combien, c'est compliqué parce qu'on a été plusieurs chercheurs à en analyser un certain nombre.
Est-ce que c'est très courant, peu courant ?
C'est assez courant, mais il y a une différence entre l'afficher, donc je ne sais pas si vous connaissez le terme de greenwashing, où on affiche qu'on verdit les documents d'urbanisme, il peut y avoir de l'heritage washing, on affiche qu'on protège le patrimoine, c'est marqué partout dans le PLU, et quand on va regarder le règlement, le dur du dur, il n'y a rien, il y a très peu de choses. Et à l'inverse, j'ai vu des PLU qui affichaient pas particulièrement de dimension patrimoniale, avec des règlements très forts sur la question du patrimoine. Donc il y a, entre ce qui est affiché et la réalité, il y a parfois un curseur qui là aussi est placé différemment.
Est-ce que vous envisagez de travailler sur des PLU de plus petites communes qui peuvent nous concerner ? Nous sommes dans un pays d'arrêt d'histoire, il y a pas mal de pays d'arrêt d'histoire en France. Ça pourrait être intéressant éventuellement de travailler sur pour voir s'il y a un impact, voilà, une retranscription dans les PLU. Est-ce que c'est un axe de travail ?
Alors là, on est sur la fin du programme, on est plutôt dans l'écriture. C'est vrai que c'est une des choses dont on s'est aperçu après. Alors on a deux choses qui nous sont tombées dessus un peu pendant le programme. C'est l'intercommunalité, qui n'était pas dans le programme de recherche au départ, qui nous ont tombé dessus dans le courant. Et effectivement, on a axé nos terrains sur des PLU plutôt urbains, très urbains. Mais on a fait travailler des étudiants de master sur ces questions de PLU de petites villes ou de villes moyennes, particulièrement en Indre-et-Loire. Et on avait envie de voir justement si on avait la même sensibilité. Et en fait, ce qui ressort, c'est que dans les communes plus petites, c'est pas une grande surprise ce que je vais dire, c'est pas un scoop, mais la question de l'ingénierie et des moyens fait qu'on ne peut pas placer le curseur forcément très haut, même si on en a envie. C'est-à-dire que ça prend quand même du temps. Un chargé d'études qui repère le patrimoine, il arpente les rues, il doit regarder, ou alors il le fait sur Google Street View maintenant, parfois. Il faut regarder, il faut faire des études, il faut essayer de voir un petit peu ce qu'est du patrimoine. Ça prend du temps, donc ça coûte cher. Et il y a des collectivités qui ne peuvent pas se le permettre. Alors c'est facile quand on est une grande ville et qu'on a l'ingénierie. Je pense à Bordeaux qui avait un PLU patrimonial, mais ils ont un service qui est dédié à ça. Dans une petite collectivité, c'est moins évident. Même en pays d'arrêt d'histoire, je pense que c'est pas forcément évident d'interagir avec ces choses-là.
Est-ce que les lois de 2014 et l'instauration des PLU modifient quelque chose sur, par exemple, les ZPPUP, RAP, les secteurs sauvegardés et les périmètres de 500 mètres qui ont été établis avant ?
Non. Non, non, ça ne change rien là-dessus. Alors, une loi, par contre, qui a modifié tout ça, c'est la loi de 2016 sur la loi LCAP, Liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine, celle qui a fondu tous ces dispositifs-là dans ce qu'on appelle les sites patrimoniaux remarquables, qui modifie notamment alors, les ZPPUP, AVAP et secteurs sauvegardés. Je vous rassure tout de suite, on a plus modifié la forme que le fond. C'est-à-dire qu'on a changé le nom, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Par contre, les périmètres des 500 mètres, aujourd'hui, sont modifiés. On les appelle des périmètres délimités des abords, pour que tout le monde dit des PDA. Et la nouveauté, c'est qu'ils ne font plus 500 mètres. Ils sont tout de suite intelligents. Parce que les périmètres des 500 mètres, il y a un auteur de droit qui dit « les ronds bêtes et méchants ». On fait 500 mètres autour d'un truc, peu importe s'il y a une visibilité plus loin, plus près. Là, ils sont tout de suite intelligents. C'est-à-dire qu'on définit de façon très très fine le périmètre tout de suite. La loi Allure sur les PLU intercommunaux change rien à ça. Pourquoi ? Parce que les éléments, les documents de protection du patrimoine, c'est une autre législation, c'est le code du patrimoine, sauf les secteurs sauvegardés qui relèvent du code de l'urbanisme, mais c'est des législations à part. Et donc, elles s'imposent au PLU. Une AVAP, c'est ce qu'on appelle une servitude d'utilité publique, c'est-à-dire un élément, alors je rentre un peu dans le détail, mais c'est un élément qui s'impose par-dessus le PLU. Le PLU doit de toute façon être compatible avec. Donc ça ne change pas la compatibilité du PLU avec ces documents-là. Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs.
Il n'y a pas eu des confrontations, il n'y a pas eu des grincements de dents, il n'y a pas eu connaissance de conflits entre, je sais pas, compétences, l'ABF, monsieur le maire.
Aussi. Voilà. si. Alors les conflits entre l'ABF et monsieur le maire sont hyper courants, voire très récurrents.
Je parle bien de la modification des lois de 2014 et 2016.
Alors 2014, non, je pense pas. 2016, ça a été une loi assez compliquée qui est le résultat d'un consensus un peu mou parce qu'il y a eu 2 ans de débat, 3 ans de débat parlementaire sur la question. Parce que, et ça, d'ailleurs, ça me permet de dire pourquoi est-ce qu'on a imaginé ce programme de recherche. Parce que la loi de 2016, à la base, ça s'appelait la loi patrimoine, faisait du PLU patrimonial l'outil de gestion du patrimoine. C'est-à-dire on supprimait les ZPPUP et les AVAP, donc on supprimait les documents de protection du patrimoine, et on disait le PLU patrimonial sera l'outil de gestion du patrimoine. Donc on donnait la responsabilité du patrimoine entièrement à la collectivité locale. Et les élus à l'Assemblée nationale, et en particulier au Sénat, sous la pression d'associations dont j'ai fait partie d'ailleurs en tant que chargé de mission, on avait un discours en disant non, on ne peut pas laisser complètement le patrimoine à la main des élus, parce que s'il y a des élus qui sont très respectueux du patrimoine, il y a aussi des élus qui ne le sont pas du tout. Et que si l'architecte des bâtiments de France, qui est ce fonctionnaire d'État qui, sur nos territoires, représente l'État pour protéger le patrimoine, n'est pas là pour être un garde-fou, on aurait des catastrophes. Pas partout, hein, mais il y a des cas où il y a des maires qui ont des projets absolument hallucinants de destruction. Alors, à Orléans, le maire voulait détruire une rue entière pour l'aligner. Si l'ABF n'avait pas été là, on n'aurait plus cette rue à Orléans où il y avait des maisons du 13e au 18e. Donc, finalement, cette loi LCAP, elle a tellement fait de débat qu'on a enlevé cette idée de faire du PLU patrimonial un outil de gestion. Ce qui, nous, nous a pas forcément embêté parce que à partir du moment où le législateur... Parce que, si vous voulez, nous, notre travail, c'est de dire... On dit que le législateur dit on fera un PLU patrimonial. Mais le PLU patrimonial n'existe pas juridiquement. On ne sait pas ce que c'est. C'est bien l'objectif de notre recherche, c'est quoi un PLU patrimonial. Et donc on s'est intéressé à cette question-là. Et même si le législateur l'a évacué de la loi, et peut-être tant mieux, je ne sais pas, on a toujours un intérêt de recherche. Mais finalement, on reste quand même sur cette idée que le patrimoine, c'est l'État, ou l'État qui partage les compétences avec la collectivité. Mais pas que la collectivité. Sauf dans le cas d'un PLU, où, et c'est là où on fait des niveaux, il y a le patrimoine de l'État, de premier rang, et il y a le patrimoine de deuxième rang, de second rang, qui est le patrimoine local, qu'on laisse à la collectivité le soin de dire ce que c'est, et de le protéger. Mais sur le patrimoine d'État, d'intérêt national, là c'est l'État qui garde la main sur la protection, via les architectes des bâtiments de France, notamment. Je ne sais pas si c'est très clair, hein. Je nage dedans depuis des années, moi.
Bonsoir, je suis Elias Saint-Pierre, c'est un geste simple, clair et court. J'ai entendu plein de choses très intéressantes qui auraient pu amener à discussion au fil de votre discours. Maintenant, sincèrement, ça va être un peu compliqué parce qu'il aurait fallu reprendre justement ce que vous avez cité. Dans le cadre de notre PLU qui date de 2013, il y a beaucoup de points que vous avez cités, entre autres référencement de patrimoine bâti intéressant, du zonage patrimonial, tout ça mêlé ou pas forcément de manière heureuse. Aujourd'hui, cohabitent des zones patrimoniales et des zones non patrimoniales. Il faut essayer d'expliquer à ceux qui ont des envies de construction qui ne correspondent pas forcément aux critères de la zone, qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire certaines choses. À côté de ça, de l'autre côté du trait, de l'autre côté de la ligne, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Vous avez parlé de patrimoine, effectivement, de certaines habitations, de certains bâtis qui ont un intérêt, alors qu'ils peuvent avoir un intérêt par rapport à l'aspect, par rapport aux techniques de construction, vous ne l'avez pas forcément évoqué. On rencontre plein de choses aujourd'hui, plein de difficultés pour appliquer, justement, pour faire appliquer une protection de l'espace. Alors après, cet espace, ce visuel, constructif et autres. Vous avez parlé aussi, je l'ai noté, de l'identité. L'identitaire, effectivement, ça aussi, il faut savoir le mettre en avant. C'est franchement très difficile à mettre en œuvre. Et puis, j'ai souvenir aussi d'un discours, enfin, d'arguments qui ont été évoqués par la personne qui a travaillé sur le PLU quand on l'a mis en place, c'est qu'on ne peut pas intervenir. Moi, j'étais un petit peu...
Si, on ne peut pas imposer.
J'étais un peu bloqué par ce type d'argument. On m'a dit, on ne peut pas interdire. On ne peut pas interdire un matériau, on ne peut pas interdire une couleur, on ne peut pas interdire ci ou ça. Alors, quand on a envie de protéger un espace, quand on a envie de protéger une commune, qu'on avait identifiée justement par rapport à ses aspects environnementaux, par rapport à son patrimoine bâti, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, d'un côté, on met des zones patrimoniales parce qu'on dit, tiens, là, c'est intéressant, et il faut protéger cet espace-là. À côté, on fait tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est capable de faire n'importe quoi. Excusez-moi, hein, mais on est capable de faire n'importe quoi. Et franchement, en tant que référent d'urbanisme, c'est très difficile de pouvoir tenir un discours par rapport aux élus, pas par rapport aux citoyens, et leur expliquer qu'ils peuvent faire ou ils ne peuvent pas faire ça. Comment est-ce qu'on peut continuer à protéger un espace si on ne peut pas vraiment interdire? Alors, moi, j'ai retenu ça. Peut-être que ce n'étaient pas les bons arguments. Peut-être que je les ai mal interprétés. Sauf que, quand même, à l'extérieur, on voit des secteurs qui sont protégés au titre du patrimoine. Bon, je prends Noirmoutier, c'est toiture tuile, façade blanche, volet bleu. Là-bas, ils ne peuvent rien faire d'autre. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on ne pourrait pas intervenir tel type de matériaux, tel type de façade, tel type de, voilà, d'aspect?
Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent dans votre question. La première chose qui ressort, c'est le sens de la limite, la limite de zone. Ça, effectivement, c'est compliqué. Quel sens elle a, une limite? Mais n'importe quelle limite, hein, n'importe quelle frontière n'a pas forcément de sens. Une des réponses, c'est d'éviter de mettre les frontières sur les rues et d'essayer de mettre les frontières en fond de parcelle, de façon à ce qu'une rue, elle garde sa cohérence. Ça, c'est une première chose. Mais effectivement, ça pose question, et les habitants ne comprennent pas forcément de dire, mais pourquoi à 300 mètres, il peut faire à peu près ce qu'il veut, et pourquoi moi, je ne peux pas? Donc ça amène à la deuxième chose dont on parlait à la fin, mais qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre, effectivement, c'est la pédagogie, l'explication. Ça, c'est sur le long cours, hein, et c'est... Ça passe aussi, ça peut passer par un pays d'arrêt d'histoire qui peut justement avoir un argument, des plaquettes de médiation, des visites. C'est sur le long cours et c'est fatigant. Je pense que c'est là où il ne faut pas vous épuiser, il faut continuer à apporter ce discours-là. La troisième chose, je suis un peu étonné parce que justement le PLU peut interdire. Il ne peut pas imposer des matériaux, mais il peut en interdire. Il peut interdire la tuile mécanique, il peut interdire tout un tas de trucs. Mais il ne peut pas imposer une couleur. Il peut interdire des couleurs, éventuellement, mais il ne peut pas en imposer. Et là, ça pose la question des outils. C'est-à-dire que dans votre...
La personne qui travaillait, c'est le responsable du cabinet, nous a dit, alors effectivement, par rapport à la couleur, on ne peut peut-être pas imposer, mais par contre, il nous a clairement dit qu'on ne peut pas interdire.
Ça m'étonne.
Je prends un matériau typique, le bac à scier.
On peut l'interdire, le bac à scier, dans un PLU.
Eh bien, je suis désolé, mais elle nous a dit qu'on ne peut pas l'interdire.
Ben moi, je lis en tout cas plein de PLU qui l'interdisent. Je pense qu'il y a un petit souci, ou un petit flou, parce que justement, le PLU peut interdire. Le PLU, définit l'aspect extérieur des constructions. Donc il peut interdire les matériaux, mais il ne peut pas en imposer. Si vous voulez aller plus loin après, sur le patrimoine, c'est plus le PLU le bon outil. Le bon outil, c'est la VAP.
Il ne peut pas imposer un architecte des bâtiments de France, il peut quand même malgré tout imposer certaines...
Mais il ne le fait pas au nom du PLU. Attention, il ne faut pas confondre deux choses. L'architecte des bâtiments de France, il n'applique pas le plan local d'urbanisme. L'architecte des bâtiments de France, il donne un avis, qu'on appelle l'avis conforme, dans le cadre des abords d'un monument historique. Et il ne se réfère pas à un règlement, lui, il se réfère à sa connaissance, il se réfère à sa propre doctrine. Donc, et c'est ça qui est compliqué à comprendre pour les habitants.
Il passe au-dessus du PLU ?
Oui. Ah oui, 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 oui. Ah, il a un pouvoir très fort. Le pétitionnaire...
J'ai un exemple qui est un peu connaît, parce que j'ai des personnes qui ont fait construire ce Mousillon à proximité du pont, enfin, proximité dans le périmètre du pont, même s'ils étaient dans le Mousillon... Ils sont capables de le voir. On leur imposait des volumes au niveau des ouvertures, une typicité au niveau de la couverture également, qui a été respecté par certains et pas par d'autres. Bon, ça après, peut-être que quand on connaît bien l'architecte, ça passe mieux.
Ça se négocie. Hein.
Mais imposer une hauteur d'ouverture un peu plus haute que le standard qu'on utilise de manière habituelle, c'est quelque chose qui est franchement absolument pas perceptible par le commun des mortels. Moi, je considère ça comme des délires d'architectes qui, franchement, sont stériles. Quand vous parlez de le patrimoine, ça a un coût. Ça, c'est le genre de surcoût qui est franchement inacceptable.
Là, vous mettez le doigt exactement sur les débats qu'on entend partout, hein, je vous rassure, qui est le pouvoir, parfois jugé trop important, de l'architecte des bâtiments de France, et parfois jugé aussi en dehors des réalités. Effectivement, l'architecte des bâtiments de France, il est en capacité, il est en droit, il est dans son droit quand il demande une couleur particulière, une taille d'ouverture particulière, un matériau particulier, et ce, même s'il y a du surcoût. Et parfois, il ne se rend pas forcément compte que simplement la personne n'a pas les moyens, ne peut pas le faire, ou ce n'est pas forcément la bonne solution. Et donc, le secret réside dans la négociation et dans le fait de se parler. Mais là aussi, tout le monde n'est pas égal. Il y a des architectes des bâtiments de France avec qui c'est difficile de négocier, il y en a avec qui c'est plus facile. Le bon outil, en revanche, pour éviter ça, c'est la VAP, c'est le SPR, le site patrimonial remarquable, encadré par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, les anciennes AVAP. Pourquoi ? Parce que la VAP... c'est un document qui est négocié entre la collectivité et l'architecte des bâtiments de France. C'est-à-dire que les deux se mettent autour de la table et avec des études patrimoniales, par des cabinets d'études, etc., ils écrivent un règlement à deux. Et ils décident à deux, enfin je dis deux, c'est la collectivité et l'architecte des bâtiments de France, ils décident de la règle tous les deux. Et ils s'engagent à respecter la règle tous les deux. Du coup, quand l'architecte des bâtiments de France rend un avis, il le fait en regardant la règle qu'il a coécrite. Et là, on évite tout un tas de problèmes qui sont justement des problèmes liés à ce que vous évoquez. En fait, c'est des avis qu'il donne au coup par coup. Dossier par dossier, il va donner un avis. Alors, dans un dossier, il va dire que la peinture, elle doit être gris numéro 410. Dans le dossier suivant, il va dire que c'est vert numéro 630. Les gens ne comprennent pas. Quoi. Moi, combien j'ai d'amis, hein, j'ai la trentaine, hein, j'ai plein d'amis qui ont acheté, qui font des travaux et qui me disent « Mais l'architecte du bâtiment de France, il nous emmerde. » Ils le disent dans ces termes. Je m'excuse pour le mot. Mais parce que justement, ils ne comprennent pas ce qu'on leur oppose. Ils ne comprennent pas en quoi ça c'est important de mettre telle couleur, etc. Que si il y a un document qui s'appelle l'AVAP, dans lequel il y a une règle qui est écrite et qui dit que la couleur, ce sera du gris 410, parce que ça s'inscrit dans une typologie particulière de couleur de la région, etc., déjà on comprend mieux la règle, et surtout, quand on fait des travaux, on sait à quoi s'attendre. Et c'est ça la différence fondamentale. C'est que ce que vous évoquez, c'est le problème d'une règle qu'on ne connaît pas à l'avance. Il y a le PLU, on la connaît à l'avance, mais on ne peut pas tout faire dans un PLU, même si, encore une fois, l'interdiction m'étonne un peu, mais on ne peut pas tout faire dans un PLU. Mais en plus, derrière, si on est en abord, il y a un autre avis qui arrive et qui peut contredire l'avis de la municipalité qui va accorder le permis, qui va dire « moi, ça ne me pose pas de problème au vu du dossier ». Donc ça peut contredire cet avis-là. Quand on a une AVAP et qu'on se met d'accord sur un règlement, on a moins ce risque-là, parce qu'on s'est déjà mis autour de la table pour négocier. Mais encore une fois, tout est négociable. Il faut se mettre autour de la table, mais ça dépend de la bonne volonté des acteurs à le faire. Et ça, si je ne connais pas votre architecte des bâtiments de France ici, mais si vous avez un architecte des bâtiments de France qui n'aime pas trop négocier, qui n'est pas très ouvert à ça, c'est compliqué. C'est vraiment le jeu d'acteurs. Là, on entre, et c'est ça aussi qui fait dire que le droit ne règle pas tout. Le droit, il n'enlève pas les jeux d'acteurs et les négociations entre les acteurs. Ça se saurait. une règle se négocie justement parce que la règle ne prévoit pas tout et que des fois, bah, il peut y avoir des règles stupides qu'il faut essayer de négocier autrement. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais...
Je voudrais juste un tout petit peu nuancer. Je pense que tout n'est pas négociable, quand même. Heureusement, d'ailleurs.
Oui, il y a des prérequis quand je dis tout est négociable.
Oui, non, mais je pense que, voilà, il faut quand même se méfier de ce que l'on dit, hein, prudent, parce que ça voudrait dire que c'est la porte ouverte à un peu tout. Le maire va signer ou... Non,
alors,
tout quand n'est pas négociable.
Quand je dis que c'est négociable, je vais préciser ma pensée. Vous n'allez pas négocier une règle, par exemple, qui dit « là, c'est inconstructible ». Ça, on ne la négocie pas. C'est inconstructible, c'est comme ça. Sont négociables les règles interprétatives, d'accord ? L'aspect extérieur des constructions est négociable. Mais oui, je force toujours un peu le trait, mais c'est mon côté enseignant, ça. J'enseigne à la fac et pour comprendre, pour... mettre un message dans la tête des étudiants, j'ai tendance à forcer un peu le trait pour que ça rentre. Donc effectivement, vous avez raison de le dire, la règle, elle est négociable dans une certaine mesure, bien entendu. C'est-à-dire qu'on peut négocier la couleur, on peut négocier les volumes, on peut négocier les ouvertures. L'important, dans la tête de ceux qui la négocient, c'est d'aller au projet qui soit le meilleur, d'avoir le meilleur projet. Parfois, la règle, elle peut empêcher un très bon projet. Et l'idée, dans ces cas-là, c'est d'essayer d'adapter la règle, parce que le projet est bon.
On est d'accord, mais il faut quand même être nuancé.
Oui, oui, vous avez raison.
On pourrait voir demain arriver en urbain, dire, mais on l'a bien entendu, tout est négociable.
Non, alors, oui, dans une certaine mesure, je rajoute.
On a essayé de protéger. On a demandé à ce qu'il n'y ait pas de possible.
Alors quand vous dites on, juste pour cadrer, c'est qui on?
C'est la Contrie.
C'est
la Contrie, c'est à la même aussi que la photopartie.
Ah d'accord, ok. Bon, alors vous avez demandé en tant que propriétaire une protection.
Voilà, nous on avait demandé à protéger. On a demandé à ce que le terrain de vigne, ce vivant, c'est une langue creuse. Nous, on n'a pas eu le droit de protéger.
C'est un choix. En fait, je comprends derrière l'idée de la dent creuse, ça rejoint le débat qu'on a eu sur la possible densification. De dire, là, c'est deux enjeux. En fait, typiquement, vous êtes dans un cas où deux enjeux se percutent, un enjeu patrimonial et un potentiel enjeu de densification. Et si vous voulez, moi, je comprends complètement votre argument. Et je peux aussi comprendre complètement l'argument de dire, c'est une dent creuse qu'on peut urbaniser.
Il y avait une grille. Il y a une grille. Donc, on nous propose la dent creuse, elle est en disons, possibilité de construire un petit collectif.
Je n'ai pas de réponse à ça, moi.
Mais je trouve que lorsque quelqu'un, un propriétaire, veut et est d'accord pour avoir, disons, des restrictions, eh bien. On ne respecte pas.
Ben, ça, c'est une négociation. Enfin, ça fait appel à la notion d'intérêt général qui est très compliquée à cerner, qui n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et donc, si la collectivité, alors j'entends des élus en tant que représentants, dans la collectivité, au sens noble du terme, ont estimé que l'intérêt général qui prévalait, c'était la densification, c'est celui qui prévaut, donc c'est celui qui prend le pas. C'est un choix politique, tout simplement, sur lequel les deux arguments, à mon sens, sont entendables. Votre argument est aussi entendable que l'autre, certainement. Il y a un choix qui est fait.
On n'a pas... Il y avait des gens qui voulaient... Nous, on voulait garder la vigne, on voulait garder la grille, et on voulait garder la maison. Et donc, telle qu'elle est... Donc,
j'entends bien.
On veut respecter le patrimoine. Mmh. On est d'accord pour payer plus cher. Mais on...
Mais encore une fois, c'est cette histoire dont je parlais tout à l'heure, de dire qu'on met toujours le patrimoine au regard d'autre chose. Et là, c'est autre chose qu'à gagner.
Oui, c'est autre chose, mais c'est quand même bizarre.
C'est un enjeu.
C'est un enjeu, mais je suis...
Mais je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Après, moi, j'ai
on
pas de
réponse. Une propriété. On ne respecte... Nous, on veut garder, on essaie de protéger... On protège contre les volontés de bâtir, etc. Et on n'a pas le droit.
Bah parce que
quand on donne la possibilité, excusez-moi.
Je vous en prie.
Quand on donne la possibilité, ça contient aussi la résistance du propriétaire. On n'oublie jamais le propriétaire à appliquer la décision du PLU dans le.
Alors si, c'est-à-dire que en fait,
il faut voir la question inverse.
On appuie souvent la question inverse, mais il faut voir une chose sur votre cas, par exemple.
Je crois qu'on rentrerait dans du technique.
Oui.
S'il y a une DUP, c'est plus pareil.
Ah oui.
Ah bah non.
Non.
Pareil. Mais tout simplement, en fait, c'est il y a une possibilité qui est laissée d'urbanisation. Si la parcelle n'est pas vendue, elle ne sera pas urbanisée. Si vous, en tant qu'habitant, propriétaire de la parcelle, vous ne vendez pas votre parcelle, il n'y aura pas de collectif. C'est une possibilité qui est laissée. C'est ça qu'il faut entrevoir.
Le foncier n'a pas la même valeur.
Oui, mais si vous ne voulez pas le vendre.
Madame dit que en fait, le fait de le changement de classement de sa parcelle l'a impacté au niveau de son imposition.
Ça, j'en sais rien. Je pourrais pas vous répondre sur la question. Ce qui est sûr, c'est qu'un terrain constructible, se vend évidemment plus cher qu'un terrain constructible.
Au-delà de ça, bon, même si c'est pas le cas sur ça, c'est vrai qu'il y a des secteurs où il peut y avoir des obligations à construire. On a défini des zones urbanisables, on ne peut pas construire ailleurs.
Alors, c'est pas.
On n'est plus dans le patrimoine.
Ouais, non, mais j'entends bien, mais c'est pas une obligation à construire. C'est en fait le PLU. Doit définir les zones où il est laissé la possibilité de construire et où, politiquement, on envisage l'extension urbaine. Effectivement, la politique aujourd'hui, elle est plutôt de dire on arrête de grignoter des terres agricoles et on fait de la densification. Donc de la densification, alors on a fait le travail, enfin, un cabinet a fait le travail sur un territoire que je suis, c'est quoi ? C'est prendre un plan et chercher les parcelles sur lesquelles il y a une possibilité de densification. Mais une possibilité de densification, ça ne veut pas dire qu'elle va se faire. C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'on vous laisse la possibilité de vendre votre terrain pour la densifier. Mais si vous, en tant que propriétaire, vous dites « Non, moi, ce terrain, c'est du patrimoine parce que c'est une parcelle, la maison sur sa parcelle », personne ne vous oblige à le vendre. Vous pouvez le garder tel qu'il est. Et finalement, je dirais même que...
Là, en l'occurrence, c'est vraiment une possibilité de construire.
Bien sûr.
Par contre, la question, est-ce que eux, ils peuvent être impactés par un autre biais, entre autres l'impôt, le biais de l'impôt.
Je ne pourrais pas vous répondre sur le biais de l'impôt. Sincèrement, je n'ai pas la réponse à la question. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vendre. Sauf si, effectivement, il y a une déclaration d'utilité publique. Mais là, on entre dans autre chose.
Moi, je m'interrogeais sur la possibilité pour le citoyen lambda de pouvoir critiquer, modifier les PLU. Parce que c'est très compliqué et c'est pas à la portée de tout le monde dans la période de présentation. Lorsque, par exemple, en ce moment, il y a le PLU de la métropole nantaise qui est présenté, mais c'est incompréhensible. C'est très, très compliqué.
Oui,
donc,
bah, oui.
quel est démocratiquement... on a une période très courte, on n'y comprend rien. Je ne sais pas... un petit peu, c'est un peu une petite farce entre guillemets.
Non, mais c'est une excellente remarque. On est très mauvais en France sur la question de la concertation. J'étais encore hier soir à une réunion de concertation du PLU de Tours où j'ai dit à la personne qui l'a fait, parce que je les connais, je dis moi en fait, tu nous as fait une réunion d'information. On nous présente un projet qui est ficelé, qui est quasi fini. On dit à l'assistance, quel est votre avis ? Déjà, faut comprendre. Faut digérer. Il faut aussi se dire qu'est-ce que ça va changer maintenant que les zones sont définies. Donc je suis complètement d'accord avec vous. C'est très compliqué. Alors la concertation, parfois il y a quand même des collectivités qui mettent en place des processus de concertation très intéressants. On évoquait la caravane du Scott dans la vallée du Loir qui a priori est venue ici présenter quelque chose. Donc ça c'est un processus super intéressant. Ça coûte cher à faire une concertation comme ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Par contre, ça prend du temps, etc. Après, on a des concertations sur un mois avec 3 réunions publiques. Ça, c'est le minimum syndical. C'est vraiment le béaba de la concertation qui relève plutôt de l'information. Et puis, on a aussi l'enquête publique. Donc ça, l'enquête publique, c'est quand il est fixé. Mais alors, sincèrement, je n'engage que moi et je nuance pas, mais je n'engage que moi. Là où c'est, à mon sens, une farce, c'est que, à moins qu'il y ait vraiment un élément qui pose problème dans le document d'urbanisme, on ne va pas trop faire bouger les lignes. Le problème aussi... sur ces questions de participation des citoyens, c'est que le citoyen, alors je ne vous blâme pas en tant que citoyen, hein, le citoyen a tendance à réagir en tant que, avec ses intérêts individuels. Ma parcelle, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan local d'urbanisme, c'est un document d'aménagement collectif qui fait appel à l'intérêt général. Et donc, il faut que le citoyen aussi soit en capacité de réfléchir à l'intérêt général, c'est-à-dire à une autre échelle que sa parcelle. Et ça, c'est pas facile à faire. Parce qu'on l'a pas appris, déjà. On l'a jamais appris à l'école, nulle part, à réfléchir à ce qu'est l'intérêt général. Et si on prend la vie de tout le monde, donc la somme des intérêts particuliers, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne fait pas l'intérêt général. On peut pas contenter tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas le même avis sur toutes les questions. Donc il faudrait que, et je remarque souvent que dans les réunions de concertation, les gens lèvent la main en disant j'ai un problème parce que PLU, est-ce que je peux toujours faire une extension chez moi ? C'est intéressant, mais c'est un intérêt particulier. Et il faut essayer de réfléchir en disant qu'est-ce que moi je pense du document d'urbanisme sur l'intérêt général de la commune, sur tout ce qu'il dit sur la commune en règle générale. Mais on a du mal en France à être performant sur ces questions-là. Il y a des choses qui existent, donc rassurez-vous, il y a quand même des processus de concertation performants qui existent. Ça coûte de l'argent, donc c'est pas facile à mettre en place. C'est long, c'est de longue haleine, et puis c'est effectivement des choses techniques. Donc pour saisir le temps de comprendre tout ça, on a souvent des gens qui connaissent déjà bien le propos qui viennent s'exprimer. Peut-être une autre
question. Je voulais savoir en fait en combien de temps un PLU est actif. Est-ce qu'il y a une durée limitée, on le fait pour 10 ans, ou est-ce qu'on peut changer quand on estime que la commune a beaucoup évolué et qu'il y a des besoins ?
Alors, il n'y a pas de durée de vie légale. En général, un PLU, on est à moyen terme, on a 10 ans, 10, 15 ans grand maximum. Et il y a des procédés qui existent, enfin des procédures qui existent pour ou modifier le PLU. Une procédure de modification, s'il y a une petite modification apportée parce qu'il y a un petit projet qui ne rentre pas dans les clous, qui est intéressant, et il y a une procédure qui se met en route de modification, ou une procédure de révision. Alors la révision, bah, c'est comme quand on révise sa voiture, on remet tout à plat, on regarde tout, et on recommence une procédure de révision. Donc oui, il y a des possibilités d'évolution, heureusement. Ah bah, à chaque fois, il y a un cabinet d'études qui revient, qui refait des études. C'est cher, hein, un PLU, mais comme tout document d'urbanisme, parce qu'il y a le SCOT aussi, le schéma de cohérence territoriale, qui est au-dessus, lui aussi, il coûte de l'argent. D'ailleurs, on peut questionner la cohérence d'avoir un schéma de cohérence territoriale à l'heure des PLU intercommunaux. Est-ce que ça a toujours du sens de faire deux documents qui sont quasiment à la même échelle et qui coûtent beaucoup d'argent dans les
états ? On a la même valeur quand même, hein, le SCOT et le PLU.
Mais on a un peu la même relation entre le particulier et le PLU.
Et le SCOT entre, et l'élu.
Et le PLU et le SCOT.
Ouais.
Les élus, qui sont aussi des particuliers, se comportent un peu de la même manière par rapport au SCOT.
Moi, ce que je vois en intercommunalité, par exemple, c'est que ça, c'est l'intercommunalité que j'ai suivie sur le processus du PLU, ça s'est très bien passé tant qu'on parlait de projet de territoire, d'identité, etc. Tout le monde était d'accord. Là, ils en sont à déterminer le droit à construire. Et là, on retombe dans les querelles de chapelle, c'est-à-dire que chaque élu de chaque commune veut son lotissement sur sa commune et dit. Et alors, il y a une raison à tout ça, j'ai compris tout ça, hein. Parce que moi je prône plutôt la décroissance en urbanisme, c'est-à-dire arrêtons de dire que chaque commune doit avoir son lotissement, ça n'a pas de sens, c'est peut-être pas là où il faut le faire. Mais je disais ça de façon un peu sans nuance, mais il y a quand même une chose que je n'avais pas sentie et que je ressens beaucoup mieux maintenant en discutant avec les élus, c'est qu'un lotissement, on sauve l'école. C'est ça l'enjeu, c'est sauver l'école. Et quand on sauve l'école grâce à un lotissement, on sauve la vie du village. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un village fonctionne ? C'est il y a des services publics minimaux, la mairie, un commerce, qui même multiservice, et une école. Et quand il n'y a plus l'école, des élus me disent ça, ils disent quand il n'y a plus l'école, il n'y a plus de village. Donc, j'ai bien compris que le lotissement, c'était pour l'école. Mais effectivement, chaque élu réfléchit à sa commune, etc. Donc c'est très compliqué.
Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'une révision PLU, c'est au minimum 3 ans. Au minimum.
Ah, ça peut être moins.
Une révision, si c'est une révision.
Une révision, ça peut être 2 ans.
Une révision générale.
C'est 2-3 ans, un PLU, bah, faut le temps. Alors, il faut aussi se dire que l'urbaniste, ça prend du temps. Il faut le temps de comprendre les enjeux, d'en discuter. Un PADD, donc un projet d'aménagement et de développement durable, ça se débat. Puis plus on est nombreux, c'est toujours ce que je dis, c'est que plus on est nombreux, moins c'est facile de se mettre d'accord.
On est d'accord là-dessus. On est collectivement d'accord sur le fait de dire que c'est compliqué. Donc un PLU à une commune, un conseil municipal d'accord, un PLU intercommunal, il faut mettre plein de communes d'accord sur le sujet. C'est extrêmement long et compliqué.
Et les enquêtes publiques, quand même, il faut encourager les personnes à aller à l'enquête publique. Parce
bien sûr.
Que, si.
Allez voir celle de Nantes. Allez voir le plume de Nantes.
Là où madame a raison, c'est qu'un PLU, je ne l'ai pas dit, en fait, souvent le particulier, il se contente de regarder le règlement du PLU. Parce qu'un PLU, surtout sur Nantes Métropole, je ne sais pas combien de pages il fait, mais ça peut être facilement 3000 pages.
Oui, facilement. Oui, mais...
Personne ne va lire 3000 pages. Moi-même, chercheur, sûr, je ne m'amuse pas à éplucher les 3000 pages d'un PLU, parce que ce n'est pas possible. Quoi.
Très souvent, ce sont des intérêts personnels qu'on y trouve malgré tout. Vous avez raison de dire que...
Mais on n'est pas éduqué à l'intérêt collectif.
On nous a mis à même de consulter le PLU de la métropole. C'est indigeste.
Ah bah oui, oui.
Je ne vois même pas comment les élus de la métropole peuvent se l'approprier.
Il y a une raison, en fait. Il y a une raison qui explique ça. J'ai pas mis de schéma.
On parle de patrimoine, alors du coup, le patrimoine, je sais même pas.
Il est noyé. Il y a un truc qui s'appelle en droit la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont hiérarchisées. Et en fait, le PLU, il est en bas de l'échelle. Donc le PLU, il doit prendre en compte le SCOT. Le SCOT, il doit prendre en compte, des schémas régionaux qui, eux-mêmes, doivent prendre en compte d'autres choses. Et ce qu'on demande au PLU, c'est de faire la synthèse de tout ce bazar. Donc, comme on fait la synthèse, à un moment donné, on dit, il y a ça sur le territoire, puis il y a ça aussi, puis il y a ça, et puis il y a ça. Et on met tout ça à côté, le nombre de pages augmente. Le PLU, il fait la synthèse de tout. En soi, dans le PLU, vous avez toutes les normes supérieures qui sont répertoriées dans le PLU. Et ça fait des documents énormes.
Aujourd'hui, le PLU de métropole, il est terminé, je ne sais plus, enfin bref. Mais on voit dans les journaux qu'il ne libère pas assez d'espace pour l'habitat. Il va manquer d'espace pour loger des gens.
Donc, ça, c'est des enjeux. Hier, au PLU de Tours, ils prônent la dédensification. Donc, on passe d'un objectif de 1 000 logements par an à 650. C'est un projet politique, c'est un choix politique de dire je dédensifie, j'arrête d'urbaniser les cœurs d'îlots. Ok, c'est un objectif.
Quand vous avez un département qui accueille 17 000 habitants
de plus
par an,
c'est tendu là. C'est tendu. Et c'est là où justement les petites communes, effectivement, c'est ce que vous dites, en fait, c'est là où les petites communes, elles ont un risque et qu'elles ont un rôle à jouer dans leur PLU, c'est de ne pas trop justement rabasser les habitants qui ne vont pas pouvoir aller habiter dans la métropole. Et essayer de cadrer les choses en disant on ne peut pas accueillir tout le monde sur le territoire, on ne peut pas tout ouvrir l'urbanisation. Parce que si vous ouvrez trop de lotissements, vous allez vous retrouver avec des tas de problèmes de circulation, etc., comme tout le monde a connu. C'est toujours où placer le curseur. Mais ça montre bien que les enjeux dans un PLU, ils sont extrêmement compliqués, et que ça montre bien aussi que finalement, moi j'ai axé le propos sur le patrimoine, mais c'est un des enjeux, c'est-à-dire c'est une des thématiques qu'il faut traiter, et vous montrez bien qu'il y en a des tas d'autres qu'il faut traiter. Et qu'effectivement, si on dit... dans la métropole de Nantes, je gèle l'urbanisation au nom du patrimoine, j'empêche les extensions et les surélévations de bâtiments, comment je fais pour accueillir 17 000 personnes par an? Donc il faut que je réfléchisse à où est-ce que je peux autoriser des extensions, des surélévations, des destructions éventuelles. Refaire la ville sur la ville. Et la boucle est bouclée.
C'est ça.
Ça, c'est un débat.
Une dernière question, peut-être?
Oui, j'essaie de ne pas sortir du sujet, mais je voulais savoir comment se protègent les villages dits de caractère par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, et qui réussissent quand même à garder un aspect, malgré les techniques, malgré les tourneaux d'acier, malgré, pourquoi pas, les panneaux solaires, vous voyez.
Même réponse, un document d'urbanisme, éventuellement un PLU ou une AVAP pour aller plus loin et pour dicter des règles qui soient assez précises.
Il n'y a pas une structure, parce que les villages de caractère, c'est quelque chose qui existe.
Il y a des labels. Il y a les petites cités de caractère, par exemple, oui, il y a un label qui vient protéger, qui ne protège pas, qui vient mettre en valeur quelque chose. Mais ça ne protège pas un label. Un label, ça dit, regardez ici, c'est beau, grosso modo. Mais c'est bien un document d'urbanisme qui va protéger, c'est une servitude qui protège.
Oui, l'autre vient en plus.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous propose de conclure ici. Merci pour toutes ces informations. Merci à tous les auditeurs pour votre participation. Je pense que c'était une belle soirée avec beaucoup d'échanges. Et vous avez permis de répondre à un des objectifs de l'Université sur l'île, qui est cet échange, ce regard extérieur sur nos propres pratiques, cet apport qui nous permet d'avancer, de comprendre les choses différemment, puis d'avoir des outils pour aller peut-être plus loin.